pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Samy est professeur invité à l'école des médias, même à l'UQAM. Il nous vient de Suisse. Il intervient en fait dans un double cadre. Premièrement, dans le cadre du cours DM 70-20, approche théorique en communication médiatique, que je donne pendant cette session. Et puis, comme lorsqu'on invite quelqu'un, en fait, je me suis dit qu'on pouvait ouvrir. Voilà. Donc, c'est aussi dans le cadre d'un séminaire du Crisis. On s'intéresse au Crisis, d'ailleurs, à la crise permanente. Mais Crisis, c'est avec un C, non pas un S, bien que Crisis. Non, mais c'est parce que c'est une erreur commune.
C'est vrai.
Ouais, c'est comme le fait d'écrire Eric Georges avec un S, en fait. Bref. Je vais vous donner simplement quelques infos sur la façon dont nous allons procéder. Samy va avoir le contrôle de la séance environ pendant 2 heures. Il en fera ce qu'il voudra. On a envisagé qu'il prendrait la parole 1 heure et qu'on débattrait ensuite, mais ça peut prendre d'autres formes, on verra bien. Et puis ensuite, je garderai mes étudiantes et étudiants qui sont inscrits au cours pendant quelques instants, avant de retrouver d'ailleurs Samy dans le cadre d'un autre cours plus tard. Voilà, alors donc le titre de l'intervention de Samy, c'est « Marketing, profilage et consommation », mais je vois qu'il y a aussi un surtitre, alors,
hein, on va
dire que c'est un sous-titre.
Voilà. Hein. Ouais. Le titre
à toi la parole.
Oui. Alors ça, c'est une explication, effectivement, pourquoi le titre général est devenu le sous-titre et le titre général est devenu, le titre de ma thèse de doctorat, le titre même même plus précisément le livre, la publication de ma thèse de doctorat sous la forme livre. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que il y avait un exercice qui était assez intéressant par rapport à la problématique que j'avais proposé de présenter ici. C'était de revenir sur des choses que j'avais étudiées à fond dans ma thèse de doctorat, dans le cas d'étude des cartes de fidélité. Que j'ai un petit peu laissé de côté en approchant aujourd'hui la problématique du big data que j'approche avec un cadre théorique un tout petit peu différent. Mais là, cette présentation aujourd'hui, pour moi, c'est l'occasion d'essayer de rassembler les deux, de finalement revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a une continuité entre la recherche que j'ai engagée avec ma thèse de doctorat et puis le big data, et puis cette séance-là. Pour moi, c'est une occasion assez intéressante de reconstruire le fil conducteur qui m'ont, d'un point de vue d'abord théorique et ensuite empirique, qui m'ont amené finalement à m'interroger sur les questions liées au big data. J'avais le choix entre ça ou alors donner peut-être un cours un peu plus traditionnel où je vous aurais développé différents types d'algorithmes, différents types de stratégies marketing, etc. Mais j'avais peur que ça soit un petit peu ennuyeux. Si ce n'était pas inscrit dans une démarche qui était celle que j'ai abordée, pourquoi j'en suis venu à m'intéresser à ces analyses telles qu'elles sont exécutées par un tas d'acteurs que je vais vous présenter. C'est ça qui m'a amené en fait à donner le titre de la présentation, finalement, le titre de mon livre, mais justement pour mettre en avant ce petit retour en arrière, ce retour aux racines. Qu'est-ce qui m'a amené en fait à m'intéresser au profilage et au marketing, hein, pas vous. Ça m'évite de parler du profilage et marketing comme ça, libéré de son contexte. Vraiment, pourquoi je me suis intéressé à ça et dans quelle démarche plus globale de compréhension holistique, j'ai envie de dire, du social, qu'est-ce qui m'a amené vers ça. Alors, je vais présenter assez rapidement la thèse, pas non plus la thèse en tant qu'objet, mais l'idée générale qui m'a motivé à développer cette idée-là, c'était je vais développer ça dans un instant, de considérer, enfin de présenter l'hypothèse plutôt, que la consommation, au fond, c'est un type de contrôle social. Ensuite, je reviendrai sur les principaux résultats et les concepts qui ont émergé, surtout à la fin de ma recherche, hein, c'est ce que je proposais de faire dans le résumé de présentation, réhabiliter le concept de biopouvoir qu'on doit à Michel Foucault, qui cette fois-ci sera appliqué non plus tellement à la sexualité mais à la consommation, et puis aussi l'idée de la construction d'un consommateur transparent. Alors c'est sans doute un peu flou, mais ça va prendre sens au fil de l'exposé. Et ensuite, après la soutenance de thèse, mes différentes années de postdoc, etc., comment, avec ce bagage théorique, ce bagage conceptuel, avec tous les résultats que j'ai pu obtenir en faisant cette recherche sur les cartes de fidélité, les cartes de fidélité qui représentent quelque part un pré-big data, en quelque sorte, un big data, avant qu'on appelle ça du big data, en quelque sorte, et en pourquoi et en quoi ça m'est utile pour développer les recherches actuelles sur le big data que j'aurai l'occasion de définir et puis j'aurai l'occasion de développer les différents enjeux sociaux et éthiques qui tournent autour du big data. Alors le point d'entrée, c'était la surveillance. C'est d'abord ça qui m'intéressait, la surveillance. D'abord au sens large. Ensuite, je me suis spécialisé sur la question de la surveillance de la consommation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, David Lyon, qui officie pas très loin d'ici, à Kingston, en Ontario, non pas en Jamaïque, malheureusement. J'aurais bien aimé, vu que j'ai fait un post-doc chez lui, ça aurait été plus rigolo en Jamaïque qu'en Ontario, mais bon, c'était sympa quand même. Qui nous propose des définitions que je vais vous épargner, mais pour dire que voilà, le champ d'études sur la surveillance, c'est un champ d'études qui est assez bien balisé, qu'il y a différentes manières de définir la surveillance, mais qu'on en revient assez souvent à ces deux définitions-là. Et ce qui m'a intéressé, moi précisément, c'est de m'intéresser précisément à la surveillance de la consommation. Mais pour comprendre ça, ce qui est utile de faire, je pense, c'est de faire la différence entre deux types de surveillance, vraiment grossièrement, deux typologies qui aident à comprendre peut-être la spécificité des modalités du type de surveillance dont je vais vous parler. Alors d'abord, c'est vrai, quand on parle des études sur la surveillance, on pense d'abord à la surveillance explicite. Les caméras de surveillance, la police, la CIA, la NSA, évidemment, depuis l'affaire Snowden, les contrôles de sécurité à l'aéroport, les fiches de police, enfin vraiment tout ce qui est officiel, dont les acteurs ont conscience. On a besoin d'ailleurs dans cette modalité de la surveillance explicite, pour que cette surveillance fonctionne, il faut que cette surveillance soit explicite. C'est le principe des caméras de surveillance. Hein. On ne sait pas si elles fonctionnent à un moment donné, si elles sont, je sais pas, dans la rue, dans le train, ou ici à l'UQAM, mais rien que leur présence, le fait qu'elles soient visibles, on va intérioriser un comportement conforme pour être sûr de ne pas avoir à s'opposer à des sanctions. Ça, c'est vraiment le modèle classique. Mais avec le développement des sociétés, des techniques de l'information, ce qu'ont souligné plusieurs chercheurs en surveillance studies, déjà dans les années 80-90, c'est l'émergence d'un nouveau type de surveillance, mais d'un type plus répandu de surveillance, qui devient même plus répandu que la surveillance explicite, c'est la surveillance implicite, dont on n'a pas forcément conscience, parce qu'elle est opérée par des objets qui n'ont pas été fabriqués pour opérer de la surveillance. Or, c'est le cas de... Là, je donne quelques exemples. C'est le cas d'Internet. Hein, même si maintenant, on met beaucoup le doigt là-dessus, on sait que les plateformes Internet peuvent être utilisées pour nous surveiller. C'est même devenu, quelque part, une connaissance populaire. C'est assez drôle, parce que il y a une dizaine d'années, quand on me posait des questions sur la surveillance, j'avais tendance à exagérer un petit peu le trait, puis de dire aux gens, vous savez, on peut être surveillé sur Internet, par les téléphones mobiles, etc. etc. Ah bon, mais toi, ça Nicole, t'es un paranoïaque, etc. Puis maintenant, je fais presque le travail inverse. Quand je dis sur quoi je travaille, les gens me disent, ah mais oui, c'est vrai, on est complètement surveillé sur Internet, machin, et je dois plutôt apporter des nuances, dire, ouais, bon, on n'en est quand même pas là, il y a quand même des garde-fous, et je dois un petit peu calmer le jeu. Je suis plus le paranoïaque, je suis plutôt celui qui va rassurer la paranoïa populaire qui s'est installée avec les différentes histoires qu'on a pu voir dans la presse, en tout cas qui ont été médiatisées, dont l'affaire Snowden par exemple. Parce que Internet, bien sûr, bon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire d'Internet, d'abord c'est une invention militaire, hein, c'était de construire un réseau informatique, c'était son état dans les années 60-70, qui pouvait résister aux attaques nucléaires des Russes, hein, le fait de construire un réseau qui est organisé en toile d'araignée, d'où le mot web. Mais, disons, dans son utilisation civile, c'est un outil qui sert avant tout à communiquer. on n'a pas développé Internet pour surveiller la population. Alors, même si c'est finalement ce qui se fait aujourd'hui, notamment pour les préférences de consommation, le profilage, hein, ce dont je vais vous parler, a priori, ça sert à communiquer, quand même, avant tout. Pareil pour les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, l'histoire des réseaux sociaux, bon, vous connaissez l'histoire de Facebook. Si par exemple vous avez vu le film de David Fincher, Social Network, où on voit que l'histoire de Facebook, en fait, ça consistait à prendre en photo les plus jolies filles du campus et puis mettre des notes de 0 à 6. Mais après, c'est devenu une plateforme de communication qui se transforme de façon implicite, parce qu'on y découvre un intérêt économique, aussi de façon sans doute plus implicite, en plateforme de surveillance. Pareil pour l'objet qui a intéressé ma thèse, les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité, comme le nom l'indique, ça sert à fidéliser les consommateurs. Faire en sorte que, si je prends la carte de fidélité de Provigo, par exemple, faire en sorte qu'il y ait un lien de fidélité qui se crée entre les consommateurs et l'enseigne, a priori, c'est pas... En tout cas, au départ, historiquement, c'était pas pour... garder pour analyser au plus près votre profil de consommation, même si au final c'est ça qui est fait aussi aujourd'hui. Et il y a aussi trois niveaux de surveillance qui sont intéressants de distinguer pour bien placer le cadre. Hein. Le premier qui prend sens surtout avec la surveillance explicite, c'est ce qu'on sent, ce qu'on entend spontanément par surveillance, la surveillance d'une organisation sur un acteur ou un groupe d'acteurs. Alors bien sûr, hein, l'État, la police, mais ça peut être aussi la surveillance d'une entreprise ou des ressources humaines sur les travailleurs. Sans doute ce modèle de surveillance des travailleurs le plus élaboré, on le trouve dans les centres d'appel. Hein, c'est là où on peut carrément avoir un suivi en direct et en temps réel sur le temps qui est passé à répondre aux gens, sur quelles affaires sont traitées, etc., etc. Ou alors, dans le cas des cartes de fidélité, d'une centrale sur les clients. Le deuxième niveau, c'est la surveillance que certains de mes collègues ont appelé la surveillance collatérale. Or, il y a un exemple qu'on trouve ici au Canada, aux États-Unis, c'est le neighborhood watching. Hein. C'est, si vous voyez quelque chose de suspect, bon, si vous êtes au Canada, vous appelez la police, si vous êtes au Texas, vous sortez votre fusil et puis vous tirez sur celui qui essaye de rentrer dans le jardin de votre voisin. Évidemment, par extension, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Ça peut être la surveillance d'une organisation, l'administration de Facebook, par exemple, qui a une vue panoptique sur l'ensemble des utilisateurs, puis qui peut faire du profilage et puis du marketing, etc. Mais c'est aussi la surveillance qui peut être opérée et qui est opérée entre les utilisateurs. D'où l'intérêt de surveiller ces paramètres de confidentialité, par exemple, ou d'être relativement discret si vous êtes marié, par exemple, quand vous envoyez des pokes ou ce genre de choses à un ex-copain ou une ex-copine. Et puis le troisième niveau qu'il faut pas oublier non plus, qui prendra tout son sens un peu plus tard dans la présentation, c'est que par l'existence ou par la connaissance qu'il y a une surveillance qui vient de haut et une surveillance collatérale, on finit par intérioriser cette surveillance, par la prévoir, de savoir, effectivement, on est en train de m'observer ou on est potentiellement en train de m'observer, donc je vais anticiper un comportement qui fera en sorte que je n'aurai pas à souffrir d'une exclusion ou d'une punition ce qui se passe quand j'adopte un comportement qui n'est pas conforme à ce qui est attendu à un moment donné sur une plateforme donnée. Alors dans le cas de la surveillance de consommation, en tout cas celle qui m'intéresse, alors c'est clairement l'organisation d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs sur les clients, là en l'occurrence c'est une entreprise sur ses clients. Pas tellement une surveillance collatérale, dans le sens que, voilà, moi si j'ai un compte, j'ai une carte de fidélité chez Provigo, par exemple, au nom de la transparence qui est garantie par les commerçants, je peux aller sur une plateforme et puis voir l'historique de mes consommations, machin. Hein, c'est aussi une stratégie pour rassurer les consommateurs. On ne vous cache rien, vous voyez, c'est toutes les informations qu'on a sur vous. Mais je n'aurai pas accès au profil de consommation de monsieur ou de Eric. Il n'y a pas de surveillance collatérale, sauf si un jour, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui vont les intéresser. Il y aurait l'invention d'une plateforme de type réseau social qui permettrait de voir les profils de consommation de ses amis pour improviser des recettes, découvrir des nouveaux produits. Je suis presque étonné qu'ils n'aient pas déjà pensé à faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et après, sur le troisième point, sur la surveillance intériorisée, est-ce que le fait de savoir que quand je présente ma carte Provigo, ça laisse des informations, voilà, potentiellement, si je mange beaucoup de gras, je pourrais avoir peur que les données soient transmises à une assurance maladie, puis que je paye plus cher ma prime d'assurance, etc. Est-ce que ça va avoir une incitation en feedback, quelque part, en rétroaction, sur mon comportement? Et puis ça, c'est une question qui se pose. Qu'est-ce qui a guidé ma recherche, disons, la grande question de départ qui m'a donné envie de mener cette recherche empirique sur les cartes de fidélité? C'était une hypothèse un peu loufoque, comme ça, qui me venait après diverses lectures, dont Baudrillard, dont Marcus, par exemple, l'homme unidimensionnel, hein, cette critique de la consommation qui était déjà un petit peu datée au moment où j'ai commencé cette thèse, hein, que voilà, la consommation, ça nous contrôle, des consommateurs décérébrés à qui on dit ce qu'on doit consommer, etc. Hein. J'ai bien le sentiment que c'était un petit peu plus compliqué que ça, mais quand même avec cette hypothèse qui demandait qu'à être invalidée, hein, en quelque sorte, c'est le rôle d'une hypothèse, hein, d'être mis à l'épreuve du terrain, de me demander si, au fond, la consommation, vraiment avec un grand C, la société de consommation, les habitudes de consommation, ne deviendrait pas, au fond, la forme, une forme particulièrement élaborée de contrôle social ou alors de gouvernement, de gouvernementalité. Ce qui m'a inspiré cette idée-là, c'était un constat. Bon, évidemment, quand on s'intéresse à la surveillance, on ne peut pas passer à côté de surveiller et punir, hein, de Michel Foucault, c'est un petit peu la lecture obligatoire quand on s'intéresse à ça. Vous vous rappelez du premier chapitre de Surveiller et punir, hein, le supplice de Damien, où il y a ce monsieur, Damien, qui a commis un crime, il essayait d'assassiner le roi, et puis il est condamné à mort, et puis on le torture sur la place publique, il est écartelé, on lui verse dessus de l'huile bouillante, c'est absolument épouvantable comme scène. Mais Michel Foucault, pourquoi il nous parle de ça? Il nous montre cet exemple-là comme étant, quelque part, je dirais pas le prototype, mais la représentation même du type de contrôle social tel qu'il fonctionnait à cette époque-là. Bon, pas mal d'historiens ont critiqué Michel Foucault en disant que son exemple était déjà anachronique, hein, qu'au XVIIIe siècle, quand le supplice de Damien a eu lieu, ça fonctionnait déjà autrement, mais en tout cas cette idée que on a un système de surveillance, en quelque sorte, d'observation de la population qui nous permet pas, parce que voilà, les technologies fonctionnaient pas comme elles fonctionnent maintenant, il n'y a pas un système policier aussi typique de la modernité, aussi développé, aussi efficace que maintenant, si on veut bien. Mais l'idée que quand on met la main, on arrive à choper un criminel, en quelque sorte, on doit mettre à titre d'exemple, appliquer une punition qui soit éclatante, hein, qui marque les esprits et qui aurait, on l'espère, un effet dissuasif. Bon, il se trouve que cet effet dissuasif, ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionnera probablement jamais. C'est en tout cas cette modalité du contrôle social telle que présentée par Michel Foucault. Et avec l'explosion démographique, avec des moyens de surveillance de la population, tels que l'arrivée des statistiques, l'organisation sociale, il donne l'exemple de le quadrillage, la façon dont on a pu lutter contre la peste ou la lèpre, etc., et tout un chapitre là-dessus, on commence à organiser la surveillance. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet aussi un adoucissement de la peine, c'est-à-dire... plus les mailles de la surveillance se resserrent, moins on a besoin d'infliger une punition dissuasive et éclatante. Comme si, c'est peut-être un petit peu grossier, hein, c'est vraiment un trait général, comme si au fond, on avait un contrôle social qui était assez paradoxal, dans le sens que, quelque part, il se renforce, parce qu'il devient de plus en plus efficace et de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet. Par contre, quand on se fait attraper, hein, je dis ça un peu vulgairement, mais c'est cette idée-là, la peine peut être beaucoup plus proportionnelle, beaucoup plus douce et raisonnable. Et j'ai eu l'impression qu'en poussant ce raisonnement au-delà de l'analyse de Foucault, qu'on continuait à aller dans ce sens-là, et que dans le développement de cette transformation du contrôle social, c'est encore à l'état d'hypothèse, il y avait un rôle essentiel qui était joué par les nouvelles technologies, parce qu'elles permettaient une visibilité et puis une gestion de la population beaucoup plus fine, et effectivement des contraintes moins visibles et moins explicites. Ça, c'était la première chose, un peu un recul historique grossier. Puis aussi, autre chose qui m'avait pas mal surpris, enfin qui m'avait pas mal... Je mélange tout là, j'ai des mots qui me viennent en espagnol, je ne sais pas pourquoi, qui ont llama l'attention, je ne sais pas pourquoi je pense en espagnol tout d'un coup, qui m'ont attiré l'attention, c'est le fait qu'on présente effectivement, ça, cette idée-là elle est pas mal exprimée par Baudrillard, qu'on présente la consommation comme un lieu de libération, de liberté, la société de consommation de masse, etc. Enfin, on va pouvoir libérer tout le monde, rendre accessible à tout le monde le bonheur de l'industrialisation, etc., etc. Vraiment un mouvement de libération, un lieu, un espace qui soit géographique ou virtuel, qui est vraiment fait pour ça, hein, pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on s'épanouisse, etc. Mais en même temps, si on regarde comment ces espaces sont organisés, c'est des espaces qui sont très étudiés, très structurés et très contrôlés. Beaucoup plus que la rue. Vous avez beaucoup plus de liberté, au fond, dans la rue, qui est un espace public, qui n'est pas censé être là pour vous fassiez plaisir ou enfin, en vue de l'épanouissement de cette, ce que Baudrillard appelle la tyrannie de la jouissance. Mais c'est les espaces conçus pour ça. Sont beaucoup plus contrôlés. Et il y a deux criminologues, alors ça c'est un vieil article, mais qui continue à être abondamment cité, c'est vraiment un classique dans les études sur la surveillance, de deux criminologues canadiens, d'ailleurs, Shearing et Stenning, qui ont fait une toute petite étude de cas en allant à Disney World avec leurs enfants, puis qui sont étonnés du fait que ils se sentaient hyper surveillés, et pour dire les choses simplement, là, super fliqués hein, dans l'espace de Disney World. Il donne à un moment le cas d'un enfant qui veut, son enfant, qui veut enlever ses chaussures parce qu'il a mal aux pieds, et puis il y a tout de suite des agents de sécurité qui viennent vers lui, qui disent non, il faut qu'il mette ses chaussures, ça va pas. Puis en fait, on se rend compte qu'on peut pas. On peut s'amuser, mais on doit s'amuser comme c'est prescrit par le contexte et par le système dans lequel on est. Donc il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans qui m'a beaucoup interrogé. Alors ça, c'était mon cadre théorique de départ, ma grande interrogation. Alors c'est bien joli tout ça, c'est sexy, ça sonne bien, oui, le contrôle, l'inversement du contrôle, la consommation comme contrôle, machin, mais bien évidemment, il faut mettre tout ça à l'épreuve des faits. Alors j'ai beaucoup galéré pour trouver un cas d'étude qui me permettait de mettre à l'épreuve cette hypothèse, pour finalement m'intéresser au cas des cartes de fidélité. En Suisse, on m'a souvent demandé, mais pourquoi les cartes de fidélité? C'est presque déjà un petit peu low-tech, hein, alors qu'à ce moment-là, il y avait déjà l'émergence de l'Internet des objets, les puces RFID, il n'y avait pas encore tout à fait les réseaux sociaux, mais ça commençait quand même un petit peu. Pourquoi j'ai choisi les cartes de fidélité? Parce qu'elles avaient deux avantages sur le plan empirique, c'est qu'elles existaient déjà depuis 10 ou 15 ans, sous leur forme informatisée, donc je m'assurais de ne pas faire de la futurologie. Ça, vraiment, c'est toujours un problème qu'on a quand on fait de la sociologie de l'innovation. C'est qu'on se retrouve finalement à aller observer ce que font des ingénieurs dans des laboratoires pour développer des technologies qui ne sont pas encore complètement adoptées par l'ensemble de la population. Ça, c'était vraiment l'avantage. C'est quand même une technologie de surveillance. C'est quand même une technologie assez poussée. Pas la carte en elle-même, hein, puisqu'il n'y a qu'un code barre, mais toute l'infrastructure qu'il y a autour qui permet de récolter les données. Et surtout, tout le monde en a une. presque tout le monde en a une. En tout cas, plus de 70% des ménages en Suisse ont au moins deux cartes de fidélité. Hein, ça représente une portion de la population énorme. Et ça permet déjà de dire que les principales entreprises, l'ensemble des principales entreprises qui proposent les cartes de fidélité, mais c'est le cas notamment pour les deux grandes entreprises en Suisse. Alors bon, là j'avais mis des pseudonymes, hein, soi-disant pour protéger la confidentialité, parce que je m'étais engagé à ça, j'avais dû signer des contrats des NDA, la Non Disclosure Act, ce qui est un petit peu ridicule, parce qu'en Suisse il y en a très peu, des chaînes de magasins. Le marché des grands détaillants se résume en gros à deux grands magasins. C'est, pour ceux qui sont déjà allés en Suisse, Migros, hein, un grand M orange. Alors j'ai simplement inversé le M. Pauvre, c'est Coop. Hein, ça tire son. Ça vient de l'histoire du magasin. C'était une coopérative. C'est plus tellement. Enfin, dans les statuts, ça reste une coopérative, mais c'est devenu une entreprise capitaliste comme les autres. Enfin bref. Tout ça pour dire que même si vous prenez seulement la Migros ou la Coop, respectivement W ou Pop, vous rentrez déjà dans ces chiffres. Il y a déjà, c'est pas toutes les cartes mélangées les unes avec les autres. Il suffit d'avoir la carte, de prendre le cas de la carte Cumulus, la carte de la Migros, pour que ça couvre déjà plus de 70% des ménages. Ça veut dire quoi au fond? C'est-à-dire qu'avec un système privé, comme ça, un système tout simple, on a une entreprise privée qui connaît beaucoup mieux la population suisse que même le gouvernement. Ils savent ce que vous mangez, ils savent, comme ils vendent aussi des produits culturels, ils vendent des livres, ils vendent des jeux vidéo. Bon, on n'est pas aux États-Unis, donc ils ne vendent pas des armes à feu, heureusement. Pas encore, en tout cas. Donc on peut vraiment inférer un tas d'informations sur vous, au-delà même de votre imagination. Et elles sont utilisées depuis 15 ans. Donc il y a vraiment une connaissance très développée de la population suisse qui est à disposition de ces compagnies. Alors on serait tenté de dire, puis c'était, vous imaginez bien, un peu l'hypothèse que j'avais en tête aussi, hein, quand j'ai abordé ce terrain, ces grandes entreprises un peu comme des grands surveillants, des big brothers qui surveillent les pauvres consommateurs, qui nous contrôlent, machin. Hein, c'est un peu l'idée de base. Et puis, je me suis vite rendu compte que la réalité était plus compliquée que ça. En tout cas, à cette époque-là, puis ça, on verra qu'avec les technologies du big data qui sont aujourd'hui disponibles, ça commence à devenir un peu différent. Mais en tout cas, à ce moment-là, et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Il souffrait de ce syndrome de l'entropie informationnelle. Hein. Il me disait, la plupart des managers, des responsables des programmes de cartes de fidélité avec qui je m'entretenais, me disaient, on a trop de données. On ne sait pas quoi en faire. Effectivement, c'est devenu facile de stocker des données, mais on essaye 2-3 trucs, mais on est perdu. Et on ne trouve pas vraiment non plus le personnel qui nous permettra, des spécialistes qui nous permettraient d'en faire quelque chose d'utile à un prix relativement modique, relativement général. Il disait, voilà, oui, il y a des techniques de data mining qui nous permettraient peut-être de faire quelque chose, mais ça coûte beaucoup trop cher. Maintenant, les prix ont beaucoup baissé avec la popularisation des outils big data. Il me disait aussi que c'était trop compliqué. Et puis, il me parlait aussi du fameux ROI. Quand il parle, oui, c'est pas ROI, je me demande de quoi il parlait. Il parle de super-héros maintenant. C'est le ROI, c'est le retour sur investissement, le return on investment. Il me disait, oui, alors effectivement, il y a certaines techniques qui sont disponibles, mais elles ne sont pas rentables pour nous. On vend déjà très bien nos trucs, on sait déjà comment faire autrement en bricolant, et on n'est pas encore tout à fait convaincu de l'intérêt de dépenser des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour avaler complètement ce système de marketing relationnel, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est en fait précisément ce système de surveillance de la consommation dont je parlais. Ben non, on n'était pas à un stade de développement de cette surveillance comme je l'avais imaginé. Alors à ce moment-là, j'étais un petit peu embêté, Parce que moi, je pensais que j'allais sortir des trucs, bah, voilà, je vais vous montrer la preuve qu'on est surveillé, qu'on est contrôlé, machin. Et j'étais tellement déçu que, à la sortie des entretiens, j'ai presque envie de dire, mais vous savez, c'est dommage, parce que vous pourriez faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. J'étais vraiment, ça m'a pris un moment avant d'accepter ça et de décider, bon, je vais au moins essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien que ça, c'est pas aussi linéaire que les théories de Foucault, les théories de Baudrillard ou d'autres théories de chercheurs en surveillance studies l'auraient pensé. Alors, il y a différentes explications. Bon, voilà, trop cher, trop compliqué, pas rentable, machin. Ah oui, j'ai une citation. Alors, FFF, c'est la FNAC, pour ceux qui connaissent ce grand magasin européen. Et puis quand je lui demandais, bon, c'est quoi votre CRM ? Donc CRM, c'est le système qui permet justement de récolter les données, d'analyser les données, le cas échéant. Je lui fais, c'est quoi votre CRM ? Puis il dit, puis pouf de rire, il me fait, notre CRM, c'est Excel. Alors moi qui m'attendais à faire face à une espèce de monstrueuse machine qui suce le cerveau de tous les consommateurs, voilà que j'ai un type qui dit, ben, en fait, on ne fait pas grand-chose, on bricole juste avec Excel. J'ai trouvé cette citation assez amusante. Autre chose auquel je ne m'étais pas, forcément attendu, mais après, quand on le découvre, c'est assez cohérent, c'est que si on prend le cas de la Migros, par exemple, ce W, c'est pas, ça n'existe pas, Monsieur Migros. Hein, ce n'est pas une entité gigantesque, ce n'est pas un Big Brother qui contrôle l'ensemble de la compagnie et puis qui décide quoi faire. C'est une entité où il y a énormément d'employés, où il y a des conflits, il y a des visions qui sont différentes. Et là, en l'occurrence, quand je suis allé interviewer puis faire des observations chez, il s'appelait la Task Force Cumulus, hein, qui développe ces outils d'analyse des données, il disait, ben nous, on est très déçus parce qu'on propose plein de nouvelles applications qui seraient super pour les responsables de marketing de tel ou tel département. Chez eux, c'est organisé, voilà, il y a le responsable marketing des produits laitiers, le responsable marketing des produits des sodas, etc. etc. Voilà, on est confronté tout le temps au même problème. Ils nous disent, écoute, ça fait 20 ou 30 ans que je fais ce métier, ça marche bien, je connais mes consommateurs, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, j'en ai pas besoin de ton truc. Hein. Beaucoup de résistance à l'interne, de gens qui n'ont pas du tout envie de changer leur façon de travailler. Hein. Donc c'est vraiment, ce marketing relationnel, c'est pas juste un paradigme technique et même un paradigme gestionnaire qu'on va introduire dans une entreprise et puis ça change. Ben non, ça risque de prendre du temps et peut-être même, comme c'est arrivé dans certaines compagnies en Angleterre, ça aboutit même des fois à des échecs. Il y a des... c'est pas Tesco, parce que Tesco, ils ont toujours la carte de fidélité, mais il y a des grands magasins, j'ai un blanc là, des grands magasins en Angleterre qui ont renoncé au système de fidélité, parce que finalement, ça a pas pris. Hein. Ça nous incite aussi à pas prendre forcément la question de la surveillance comme une fatalité. J'aurai d'autres arguments aussi qui permettront d'aller dans ce sens-là. Et aussi, beaucoup de ces chefs marketing qui me disaient, au fond... ce qu'on fait, les techniques marketing traditionnelles qu'on fait, elles fonctionnent déjà. On n'a pas besoin de ces nouveaux outils. Mais là, quand même, dans les entretiens, assez longs, des fois, 2 heures jusqu'à 3 heures avec voilà, le chef marketing de tel rayon, etc., on sentait quand même une certaine contradiction. On disait oui, alors non, ces nouveaux outils de type CRM ou marketing relationnel, ça ne nous intéresse pas. Hein. Puis après, 10 minutes après, il me disait un truc complètement contradictoire. Non, mais on a quand même fait une campagne, puis là, c'est vrai que c'était bien. Puis j'ai été tenté d'interpréter ces contradictions peut-être comme le signe d'un changement. J'ai eu l'impression d'avoir eu, dans certains cas, des individus qui semblaient tirailler entre les anciennes façons de faire et puis les nouvelles façons de faire. Alors, non. Hein, des fois, on posait cette question-là à la fin de mes présentations. Est-ce que le CRM ou est-ce que le système de fidélité, est-ce que c'est un Big Brother ? Non, ça n'est pas un Big Brother. C'est plus compliqué que ça. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a quand même un développement de la publicité ciblée qui se fait selon certains paradigmes de marketing. Alors, l'exemple le plus rigolo qu'on m'a donné, C'était un entretien avec le responsable d'une sous-branche de la Migros qui fait de la livraison à domicile. Donc vous faites vos commandes sur le site internet. Et il me disait, voilà, on travaille avec les corrélations. On a un outil de corrélation qui, voilà, les gens qui ont acheté ça achètent aussi ça, un peu comme sur Amazon. Puis il donnait un exemple, il disait, voilà, on a remarqué que les gens qui achetaient des bananes achètent aussi des clous. Bizarre, ben comment pouvez-vous m'expliquer? Ben non, on ne peut pas l'expliquer, ça nous a fait bien rigoler, mais on n'a pas besoin de l'expliquer. On sait que ça marche, et ça, c'est suffisant déjà pour atteindre une efficacité, pour justifier l'adoption de cette corrélation. Le deuxième point, qui est quand même déjà plus inquiétant, c'est l'accroissement des connexions entre les bases de données. Parce que d'un point de vue de... À quel moment il faut s'inquiéter face aux pratiques de surveillance, si vous voulez, tant que les bases de données sont séparées les unes envers les autres, si la base de données de la carte de fidélité de la Migros est hermétique, puis que ça sert juste à faire du marketing ciblé par rapport à la base de données de je sais pas moi, de Swisscom, c'est l'opérateur, le premier opérateur de téléphonie, qui font leur marketing, etc. Tant que c'est séparé, c'est pas trop inquiétant, mais quand on commence à faire communiquer les bases de données, comme c'était déjà en train de se faire à l'époque où j'ai fait mon enquête et comme ça se fait de plus en plus, là ça peut commencer vraiment à déraper, et c'est là que ça devient de façon plus claire du big data. Je vais expliquer pourquoi dans ce cas particulier précisément dans un instant. Alors, quelle quantité immense de données récoltées chaque jour, hein. Je vous disais que ça représentait 70% des habitudes quotidiennes de consommation de la population suisse. Alors bon, on n'est pas beaucoup en Suisse, on n'est que 7 millions de personnes, mais bon, quand même, ça fait un sacré paquet de données. Et puis, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'approche marketing, puisque c'était aussi un peu le sujet de la présentation, en fait, le concept même de fidélisation a changé. C'est mon collègue qui est canadien, d'ailleurs, Primor, qui a fait sa thèse à Kingston aussi sur les cartes de fidélité. Lui parle de fidélité polygame. Il se dit, mais au fond, la carte de fidélité, quelque part, elle perd son sens, dans le sens où on a un porte-monnaie avec plein de cartes de fidélité. En fait, on est fidèle à plusieurs enseignes. C'est-à-dire, je peux avoir la carte de fidélité de Provigo, celle d'Intermarché, celle de Walmart, celle de tel magasin. Qu'est-ce que ça devient, la fidélité? En fait, cette fidélité, c'est plus la fidélité à des produits qu'à une enseigne. C'est-à-dire que la lutte d'un magasin par rapport à leur système marketing, c'est plus de faire en sorte de vous empêcher d'aller dans un autre magasin. On ne veut plus que vous ayez chez Provigo, on veut que vous veniez uniquement chez Intermarché, par exemple. Mais c'est de voir, voilà, vous achetez de la litière pour chat chez nous, mais pas la nourriture pour chat. Donc c'est-à-dire que vous l'achetez ailleurs. On va faire tout nos possibles pour vous envoyer de la publicité ciblée, des bons de réduction, etc., pour que vous achetiez la nourriture pour chat aussi chez nous. Donc finalement, la guerre entre, si vous voulez, la concurrence ne se joue plus uniquement sur l'enseigne, mais sur tous les produits. Aussi parce qu'on a une technologie qui est à disposition, qui permet d'analyser le comportement des consommateurs sur les produits. On n'a pas seulement l'information, telle personne va faire ses achats dans telle enseigne, mais va acheter tel ou tel produit chez nous. Hein. Vraiment une analyse de la concurrence qui se fait sur la granularité aussi fine des produits. Alors tout ça, c'est bien joli, ça peut fonctionner très bien, mais bien évidemment, on a besoin de la collaboration des consommateurs, évidemment. Si vous avez un bon système de fidélité, mais que ces cartes de fidélité n'intéressent pas les consommateurs, ou qu'ils n'en ont pas une sur eux, puis qu'ils ne vont pas la présenter à chaque achat, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, il faut, c'est un peu le terme que j'avais employé dans ma recherche, il faut discipliner le consommateur transparent, faire en sorte que ce consommateur qui était jadis opaque deviennent transparents face au dispositif de récolte des données. Alors, en fait, c'est assez simple. Il faut faire en sorte qu'il ait la carte sur lui et qu'il la présente à chaque achat. Et quelles sont les mesures concrètes pour augmenter cette transparence? Bon, alors on fait appel au consommateur rationnel, en quelque sorte. On fait appel à sa rationalité, on lui promet des avantages, on lui promet des récompenses. Mais j'ai pu voir dans les différents entretiens avec les consommateurs que ce n'est pas ça qui marchait le mieux. Quand je leur demandais, mais finalement, ça vous apporte quoi comme avantage, ces cartes, ils me disaient, quelques points, de temps en temps, j'ai un bon, mais je ne sais pas exactement. En fait, c'est plutôt au forcing que ça fonctionne, que finalement, en tout cas, en Suisse, et puis à ce moment-là, c'était vraiment au niveau des techniques du corps, dirait Marx, que ça se jouait. C'est à force de vous répéter, vous avez une carte, non, vous en voulez une, vous avez des avantages, si vous voulez, l'appel à la rationalité, il faut juste qu'on vous rassure que vous n'allez pas perdre de l'argent, que vous n'avez rien à perdre. Mais après, c'est vraiment au forcing que ça fonctionne. Et j'ai eu d'ailleurs pas mal d'entretiens avec les consommateurs qui me disaient, non sans humour, bah, tu sais pourquoi j'ai une carte ? C'est parce que j'en ai ras-le-bol qu'on me demande si je l'ai. Donc maintenant, je l'ai, je la présente, et ça me fait des vacances, là. On ne demande plus, vous avez la carte, vous avez la carte. Et aussi tout un système de récompense des employés. Quand un employé vous demande votre carte, vous dites que vous n'en avez pas, et vous fait remplir un formulaire pour en obtenir une, dans certaines enseignes, il est récompensé pour ça. Et ce n'est pas du tout anodin, parce que dans certains cas, dans un des magasins, ça allait jusqu'à 10 francs suisses par carte donnée à un nouveau utilisateur. 10 francs suisses au taux actuel, ça fait à peu près 13 ou 14 dollars canadiens. Et j'ai eu des entretiens avec des employés qui arrivaient vraiment à bien arrondir leur fin de mois, qui se faisaient jusqu'à 600 dollars par mois de plus. Hein. Ce n'est pas anodin. Et puis ça amène beaucoup de disputes aussi. Il y a des compétitions, il y en a qui, au moment où vous demandez la carte puis qu'on vous envoie au service client, petite minette au service client, j'ai vu ça, qui déchire le formulaire où il y a le code de la personne qui est bénéficiaire de la récompense en plus et qui va mettre son nom à la place. Et puis j'ai assisté à des disputes, il y a le directeur qui s'en est mêlé. Il y a vraiment un enjeu économique important là-dedans. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'au fond, on a tendance à peut-être un peu trop aujourd'hui, à considérer que dans la société de l'information, c'est acquis. L'utilisateur est devenu transparent, le consommateur est transparent, c'est comme ça, il n'y a pas de retour en arrière, on est obligé de vivre avec, on ne peut pas faire autrement. Mais les observations que j'ai pu faire derrière les caisses précisément, puis je pense qu'on pourrait aboutir à peu près au même résultat si on observe les utilisateurs de smartphones ou sur Internet, la fatigue qu'on peut avoir face aux publicités ciblées ou ce genre de choses. Ce n'est pas aussi simple que ça. Cette transparence de l'usager, cette transparence du client de supermarché, là, en l'occurrence, elle doit être entretenue. Alors elle est entretenue par le fait que le magasin rappelle fréquemment au consommateur qu'il a plein d'avantages et puis on lui demande est-ce que vous avez la carte, si vous ne l'avez pas, il faut l'avoir, c'est génial, etc., etc. Qui demande constamment aux employés, donc les employés ont l'obligation de chaque fois vous demander la carte, ce n'est pas juste pour vous rendre service, c'est aussi pour vous rendre service, mais si elle ne le fait pas, ils appellent ça le client mystère, un faux client qui vient vérifier que la prestation de la caissière soit OK, puis parmi les choses qu'elle check, il y a cette fameuse question qu'elle doit poser. Un peu plus inattendu, c'était la pression des consommateurs sur les employés. Alors ça arrive très souvent. Le gars qui arrive avec un gros caddie, puis qu'il y en a pour 200, 300 dollars de consommation, puis la caissière oublie de lui demander sa carte, et puis elle va faire un scandale. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé la carte? J'ai perdu 300 points, machin. Elle doit aller au service client pour récupérer les points, puis elle va montrer du doigt qui était la vieille caissière qui n'a pas demandé, etc., etc. Et puis ça crée des problèmes. Et aussi, la pression des consommateurs entre eux. Alors ça peut être au sein de la famille. Alors typiquement, c'est madame qui demande à monsieur de faire une copie de la carte de fidélité puis de la présenter à chaque achat. Mais ça se passe aussi dans la file d'attente. Quand vous avez une personne âgée qui a une carte de fidélité au fond de son sac et puis qui ne la sort pas assez rapidement, voilà les gens qui s'impatientent derrière. Et on peut s'attendre, c'est des choses que j'ai pu observer, à ce que la technique du corps, en quelque sorte, de la personne, la technique du corps en tant que consommateur, soit plus efficace au prochain passage en caisse, puis que la carte soit sortie plus rapidement. Tout ça, c'est un système d'entretien de cette transparence. Et là où vraiment c'était intéressant, c'est quand j'ai pris rendez-vous avec le gérant, enfin, c'est le directeur d'un des magasins Migros, Puis je lui dis que je faisais mon étude sur les cartes de fidélité. Puis il me dit, ah, bah tiens, c'est marrant, vous m'appelez maintenant. Parce que maintenant, on est justement en train de redemander aux employés, de demander systématiquement de présenter la carte. Parce que, bon, il y a 3 mois, la direction s'est dit, bon, présenter la carte, c'est rentrer dans les mœurs. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intéressant d'utiliser cette expression-là, c'est rentrer dans les mœurs. Hein. Bref, c'est le terme qui était utilisé. On ne peut pas s'empêcher de penser à Norbert Elias dans ce cas-là. Mais bref, c'est rentrer dans les mœurs. C'est devenu une habitude, c'est bon, les consommateurs sont transparents, sont prêts. Et puis, il y a eu une descente du taux de présentation de cartes. Il y a de moins en moins de clients qui présentaient les cartes. Puis il fallait de nouveau redemander aux employés de demander systématiquement la carte. Comme quoi, cette transparence qu'on nous présente comme étant irréversible, non, elle n'est pas irréversible. Elle passe aussi par le système cognitif, si on veut, et par les habitudes du corps. Elle doit être construite et entretenue. Parce que là-dedans, dans la surveillance, ce n'est pas une machine qui nous surplombe et puis qui nous surveille. Ça se passe, ces dispositifs de surveillance passent par les interactions du quotidien. Dans le cas des cartes de fidélité, c'est les caissières, c'est les vendeurs aussi qui vont des fois fouiller dans les bases de données pour avoir des informations pour mieux vous servir. Enfin, on a plein d'agents qui sont humains. Ça implique des corps, ça implique des représentations. Et c'est ça qui est vraiment important de rappeler. On n'est pas face à une machine technologique écrasante, un Big Brother électronique, comme on a pu des fois un peu trop le penser dans les surveillance studies, surtout dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Non, tout ça, c'est composé d'humains, d'interactions sociales. Il y a des résistances, il y a des erreurs. On peut manipuler le système. Il y a même des clients qui arrivent à hacker les cartes de fidélité. Par exemple, il y avait un truc qui faisait que si j'avais une carte de fidélité à laquelle étaient attribués 3000 points, par exemple, je pouvais utiliser ces 3000 points pour acheter quelque chose dans le magasin. Et certains utilisateurs avaient remarqué qu'il fallait à peu près un quart d'heure pour que ce retrait soit comptabilisé dans la centrale. Donc ils utilisaient ces 3000 points autant de fois qu'ils pouvaient pendant le quart d'heure. Ils se retrouvaient avec une carte avec des points négatifs. Ils avaient peut-être moins 15 000, moins 20 000. Puis cette carte, ils la foutaient à la poubelle, puis ils en commandaient une autre. Bon. Maintenant, ça ne marche plus. Mais pour montrer que l'être humain est très imaginatif et il y a plein de stratégies pour échapper à cette surveillance ou pour exploiter ces dispositifs de surveillance de façon différente, à son avantage. Donc clairement, il n'y a pas de complot. Hein. On reproche encore aujourd'hui à Michel Foucault d'en surveiller punir, et si la société est une prison, de défendre un point de vue un peu complotiste comme ça, l'idée qu'il y a un nombre restreint de personnes qui mettent en place des technologies. Non, c'est plus compliqué que ça. Si surveillance il y a, c'est une surveillance émergente. Hein. C'est une agrégation d'intérêts, souvent à court ou à moyen terme, qui se rencontrent et qui font émerger une situation de contrôle social. C'est minimiser ses efforts, c'est pour les usagers, c'est gagner des primes, c'est pour les systèmes de fidélité, récolter des données, c'est augmenter les profits, etc. Puis c'est tous ces micro-intérêts qui se rencontrent. Puis ça pourrait ne pas fonctionner, mais dans ce cas-là, ça fonctionne. Et puis ça crée ce dispositif. L'avenir des cartes de fidélité. Alors, je me suis beaucoup intéressé à un système de fidélité qui était assez avant-gardiste à l'époque, mais qui n'existe plus. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. J'ai harcelé un moment pour obtenir un entretien que j'ai malheureusement jamais obtenu. Mais c'était un système qui s'appelle Foodflex, qui existait aux États-Unis, qui en fait fusionnait les données de différents magasins qui appartenaient tous à cette société, la Safeway, et qui commençait à faire des recommandations de l'ordre de la santé, comment se nourrir de façon saine. Donc, vous pouviez avoir un décompte des calories qui étaient consommées, des fibres. On vous disait, vous n'avez pas mangé assez de fibres aujourd'hui, vous avez trop de cholestérol. Puis évidemment, pour lutter contre le cholestérol, on a un produit fantastique chez nous. Vous pouvez acheter seulement pour la somme, etc. Voici un bon de réduction, machin. Le problème, c'est que là, pourquoi pas, vous trouvez ça intéressant. D'ailleurs, quand le programme a disparu, les gens s'en plaignaient. Ils disaient, tiens, mais pour une fois qui nous propose quelque chose d'intéressant, ben, ça disparaît. Vous voyez bien, le problème éthique ici, c'est qu'on a une entreprise privée qui s'invente, qui cherche peut-être quelque part à long terme à remplacer les pouvoirs publics. Hein, en tout cas, qui a presque plus de pouvoir que, alors en Suisse, ça s'appelle l'Office fédéral de la santé publique. Je ne sais pas comment ça s'appelle au Canada, mais l'Office qui gère la santé en tant que enfin la bonne santé du peuple canadien, du collectif peut-être.
Ah, c'est plus compliqué que ça. Une région fédérale, on doit avoir au moins 2 ministères de la santé.
D'accord. Ok.
Un au Canada, un au Québec.
Ouais, c'est ça. Mais disons qu'ils ont on l'espère, pour souci de pas être, enfin d'être, comment dire, pas pris dans des conflits d'intérêts.
Ouais, et de prendre des... Comment le plan alimentaire va être fait là, parce qu'en gros il doit être fait à force d'avoir été lobbyé à mort, à mort, à mort, on le refait au bout de 7 ans, 8 ans qu'il est mis en place. Mm-hmm. Et donc un des gros enjeux est de dire comment on empêche les industriels de dire ce qu'ils vont faire.
Voilà. Ouais. Alors que là, effectivement, il y a une tentation en Suisse, là, de l'Office fédéral de la santé, d'accéder aux bases de données de la Migros ou de la COP pour avoir. Il y a des tentatives de collaboration comme ça. Ça commence à se décomplexer à ce niveau-là, une collaboration publique-privée, soi-disant pour le bien-être de la population. Hein. Vous avez des données que nous on n'a pas, qui nous permettraient d'adopter des politiques qui sont plus efficaces. Mais ça devient très, très tendancieux et quand même pas mal problématique. Oui, c'est un bel exemple, ça, la carte de fidélité de la SAQ.
Effectivement. C'est plus intéressant quand même, c'est une carte de fidélité face à une absence de concurrence. Ouais. Donc le terme de fidélité est quand même vraiment interrogatif.
Oui, c'est ça.
C'est qui, on cherche la fidélité.
Ouais. Fidèle, ouais, vous êtes obligé d'être fidèle à... Le seul choix que vous avez, c'est de ne pas boire l'alcool.
C'est pour les frontaliers qui habitent près de l'Ontario. Pour les frontaliers, la HBO qui fait confiance.
Ceux qui reviennent des valises chargées. Pour en avoir plus d'alcool, on te donne des points, on te récompense de façon utile pour boire plus d'alcool.
Mais pour la carte de la SAQ, il faut que tu boives beaucoup pour avoir une bouteille gratuite.
Oui, je pense que ça équivaut à un sou réellement par bouteille achetée avec la carte.
Mon Dieu.
Mais c'est drôle parce que la publicité focus vraiment sur le fait de connaître les habitudes des gens. On semble montrer qu'on connaît les habitudes de boissons, de consommation d'alcool des gens.
Mais c'est spécial. Si on commence à. Si les données de cette carte-là commencent à être fournies au pouvoir public.
Oui.
Ou l'assurance, ou
voilà.
Si on n'a pas le risque
d'être
contre moi, je vous le dis.
Ouais, le risque est réel, hein. En tout cas dans l'exemple de. C'est un tabou qui a été franchi par ce programme Foodflex, hein, de s'intéresser à la santé des gens. Et paradoxalement, c'est à la fois là où ça commence à poser problème éthiquement. Parce qu'on peut considérer qu'une entreprise qui utilise des données des clients pour faire de la publicité, du marketing, on peut trouver ça pas génial, mais disons éthiquement, c'est acceptable. Il y a quand même signature d'un contrat. On peut raisonnablement attendre des gens qui ont une carte de fidélité à ce qu'ils reçoivent de la publicité ciblée. On comprend ça. C'est pas éthique. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus. Bien sûr, il y aura déjà des effets de discrimination. On favorise les bons clients par rapport aux mauvais clients, etc. Ça pose des problèmes en matière de protection de la vie privée, machin. Mais disons, l'objectif qui est recherché, il est légitime, en tout cas sur le plan juridique. Par contre, là où il commence à y avoir un gros problème, c'est quand on utilise ces informations-là qui ont été récoltées avec l'objectif présenté de faire de la publicité, puis qu'on commence à les utiliser. Soi-disant pour vous aider à améliorer votre santé, il commence à y avoir des dérapages et ça commence à devenir problématique. Et c'est là qu'on peut parler, je pense, en tout cas c'était l'idée de cette idée de biopouvoir, ça devient du biopouvoir, ça devient un contrôle plus direct sur le, vraiment au sens littéral du terme, hein, le biopouvoir, le pouvoir qui s'exerce sur les corps. Hein. Ça peut être la sexualité, les habitudes de consommation, ça va jusqu'au... Oui, comme suggéré par Foucault, là, hein, bon, ça, biopouvoir, vous connaissez, hein, c'est ce concept qui l'invente, enfin, qui crée dans sa recherche sur l'histoire de la sexualité, et qu'ensuite il étend sur les façons de se nourrir, de se loger, les conditions de vie, l'espace tout entier de l'existence, et ça ressemble à ça. Hein, des données qui sont récoltées à des fins marketing puis qui sont utilisées pour autre chose, on commence à flirter avec quelque chose qui est de l'ordre du biopouvoir. Et là où c'est étonnant, ou pas étonnant, mais en tout cas à double tranchant et paradoxal, c'est que la critique que j'ai pu rencontrer de la part des consommateurs, les usagers des cartes de fidélité, ils ne me disaient pas « oui, non, c'est embêtant parce que ça contrevient à ma vie privée, machin ». Quand ils critiquaient les cartes de fidélité, ils opposaient une critique assez traditionnelle face à la société de consommation. Oui, on veut nous faire consommer plus, c'est pas intéressant, machin. Par contre, quand je leur suggérais que ces données pouvaient être utilisées pour autre chose, calculer leur niveau de cholestérol, les aider à arrêter de fumer, machin, ben, ils trouvaient ça super. Ah, bah pour une fois que les entreprises privées vont essayer de faire quelque chose qui soit bien pour nous. Alors que paradoxalement, c'est là où ça commence à éthiquement devenir problématique. Puis j'ai ce morceau de citation que j'aime beaucoup, là, bon, c'est un nickname, Jeannette, dit... avec non sans humour, qu'on m'observe, je m'en fous, c'est des carottes et des patates. Alors ça, c'est un autre problème, c'est qu'on pense aussi que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait sur Internet, finalement, tant qu'on ne va pas sur des sites néo-nazis, ou qu'on ne commande pas des kalachnikovs, ou qu'on n'achète pas de la drogue, etc., on ne peut pas savoir grand-chose sur nous, ben, détrompez-vous, avec le data mining, on peut inférer des choses très fines. On peut deviner votre orientation sexuelle, on peut... inférer votre classe sociale, on peut inférer votre état de santé avec des algorithmes de recherche d'association relativement simples. Alors il me dit, voilà, je m'en fous, si on découvre que j'ai couché avec un jeune de 25 ans, non, voilà, c'est ce qu'elle considère comme étant de l'ordre de l'intimité. Par contre, si c'est pour m'aider à baisser mon taux de cholestérol, ou pour m'aider à arrêter de fumer, ah, ça serait bien. Donc on peut s'attendre, ça reste à vérifier, bien sûr, dans une échelle plus représentative, mais on peut s'attendre à ce que ça amène une réception favorable de la part de la population. Hein. Un autre exemple, Suisse, cette fois-ci, c'était la Migros qui voulait introduire un nouveau colorant qui s'appelle le Sunset Yellow, qui donne une belle coloration jaune pétant à vos produits, dans une panoplie de produits. Mais il y avait juste un problème, c'est que ce colorant, le Sunset Yellow, était un peu controversé. On le suspectait, si on le consommait au-delà d'un certain seuil, ça se mesurait en nanogrammes ou en picogrammes, je ne me rappelle plus, de favoriser de l'hyperactivité chez les jeunes enfants, ou certaines formes de cancer. Donc, à ce moment-là, les autorités, le FSA, les autorités européennes de contrôle de la sécurité alimentaire, disaient « Ok pour le Sunset Yellow, mais il faut que vous nous garantissiez que dans le panier moyen du ménage, les membres de la famille ne vont pas consommer plus que tant de picogrammes du Sunset Yellow. » Or, ça demandait des études auparavant, parce que c'est pas un premier sur le fait qu'on veut introduire un édulcorant ou un... Hein, vous savez, ces fameux colorants, c'est pas un produit qui commence par E, là, E308, machin, il faut faire ces études-là. Ben voilà, parmi ces jeunes qui essayent de convaincre ceux qui sont là depuis 20 ou 30 ans qu'ils changent leur méthode de faire, ils disent « Ah, ben, vous n'avez plus besoin de dépenser de l'argent à faire des études anthropologiques, de consommation, on a déjà ces informations dans la base de données. On peut faire une simulation. » On peut faire, voilà, et si dans tel produit, par exemple la confiture au citron, et puis des biscuits à ceci, etc., on va faire une simulation, on met le Sunset Yellow là-dedans, et puis par rapport au pattern de consommation de la population suisse, on va voir si il y a des risques que certaines populations en absorbent trop. Et le résultat, c'était qu'ils étaient bien en deçà de la limite et qui pouvait franchement y aller à peu près comme il voulait sur le 7-7-Tiélo, il n'y avait vraiment pas tellement de risques. Alors on peut se dire, ben, c'est super, on a là un outil pour protéger la santé des gens, c'est une façon de voir les choses, mais on peut aussi voir ça comme une gestion de l'empoisonnement. Cyniquement, j'ai un collègue qui me disait, ouais, c'est limite. Si finalement on regarde jusqu'à quel point on peut t'enfiler du Sunset Yellow jusqu'à que tu gerbes. Hein, vraiment, ça permet de faire ce genre de choses. Alors là, éthiquement, c'est quand même un petit peu problématique. Et c'est, disons, au travers de ces deux exemples, et puis il y a quelques autres, je pense que le concept de biopouvoir, il fonctionne assez bien. Hein, parce que dans le biopouvoir, bon, c'est pas exhaustif, mais disons les principales dimensions du concept de biopouvoir, je trouve, s'appliquent bien à ça. C'est qu'il y a l'idée d'une libéralisation du contrôle, une porosité entre entre pouvoir public et pouvoir privé. Hein. C'est pas que tout devient privé, mais il y a une collaboration qui se crée, une hybridation des formes du pouvoir, une implication des acteurs privés comme publics. Voilà, on baisse les budgets au ministère de la Santé, et puis les magasins, ils sont là. Mais vous voyez, on a des données qui vont vous permettre d'économiser de pas perdre de l'argent sur les sondages, etc. On voit bien comment ça peut prendre place. Un élément essentiel du biopouvoir, c'est cette idée de la transparence, hein, l'idéologie de la transparence, de transformer les sujets en sujet transparent, comme dans le cas de la sexualité. Enfin, le contrôle sur la sexualité, c'est le sexe bavard, tout ce dont nous parle Michel Foucault dans l'histoire de la sexualité. Que ce pouvoir-là n'est pas subi, on devient en tant que sujet du biopouvoir nous-mêmes des acteurs de ce sujet-là. Hein, je vous ramène à la citation de Jeannette qui dit « Ah, mais si on pouvait faire ça, ça serait super. » Elle serait encore plus contente de donner des informations. On retrouve un peu les idées du quantify self aussi. Hein, pourquoi on est d'accord de donner des informations tirées des devices qu'on met autour du poignet ou sur le cœur, machin, de les concéder à des centres de calcul qui vont nous faire des profils parce qu'on en attend quelque chose de positif. Hein, on ne nous force pas à donner ces informations. Et puis oui, ça touche aux paramètres vitaux, ça touche au comportement du corps. Il y a des liens avec les campagnes sur la lutte contre l'obésité. C'était un des buts avoués de Foodflex. Faire avancer la cause de la santé publique, lutter contre l'empoisonnement, donner un exemple avec le Sunset Yellow, etc., etc. Et puis aussi, il y a toujours cette question, puisque cette notion du biopouvoir émerge avec la sexualité, de la gestion du plaisir. Hein, parce que si on met un colorant, a priori, c'est pour améliorer votre expérience consommateur du plaisir de consommer tel ou tel produit. Alors, ça, peut-être... Très rapidement, simplement rappeler qu'on n'est pas tous situés on part pas avec les mêmes chances de départ dans le biopouvoir. Hein. Dans le cas de la sexualité, ça reste le biopouvoir. Malgré tout, même si on devient tous consentants à donner des informations sur soi, ou dans le cas de la sexualité, à parler de sa sexualité, y a quand même plus ou moins les gagnants de ce système-là par rapport à d'autres acteurs. Hein. Faut pas oublier qu'il y a des rapports de classe. C'est pas parce que on est tous d'accord finalement pour un tas de raisons de participer à ces systèmes de contrôle et de surveillance que ça profite à tout le monde de la même manière. Et c'est là que j'en viens au big data, où finalement ces dynamiques que je vous ai présentées dans le pré-big data, on les retrouve de façon encore plus éclatante, de façon encore plus visible dans les projets explicites du big data tel que c'est défendu par les promoteurs. Big data, on a toujours un peu de misère à le définir. Hein. Vous ne trouverez pas deux définitions du big data qui vont se ressembler, mais simplement un petit recul historique. Avant tout, le big data, c'était le nom qu'on donnait à une technologie spécifique. Mais après, avec la popularisation du terme big data, c'est devenu plutôt un terme qui caractérise, un mot valise en quelque sorte, qui caractérise un ensemble de pratiques qui sont devenues courantes. De façon générale, la récolte de données et l'analyse de ces données pour remplir des objectifs aussi divers que variés. Et puisque c'est difficile de donner une définition univoque, on peut en tout cas retenir certaines caractéristiques. Alors bon, la caractéristique numéro 1, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est bien sûr un stockage de masse de données. Alors bon, je vous ferai l'économie de faire la différence entre base de données non structurée et base de données relationnelle, mais c'est en gros, au lieu de stocker les données de façon structurée, en sachant... La différence, c'est ça, c'est qu'on crée une base de données, normalement avec les bases de données relationnelles, on fabrique une base de données quand on sait déjà ce qu'on veut en faire. Alors qu'avec le big data, si vous voulez, je grossis un petit peu le trait, on a un grand sac comme ça, un grand aspirateur de données, on aspire les données de façon déstructurée, et après, on réfléchit sur ce qu'on va pouvoir faire de ces données. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est depuis seulement quelques années, avant, au moment où j'ai fait mon étude sur les cartes de fidélité, on avait déjà la possibilité du stockage en masse, mais on n'avait pas encore beaucoup de choix dans les algorithmes. On n'avait pas des algorithmes suffisamment puissants qui nous permettaient de faire un traitement exhaustif de ces données sans forcément avoir de questionnement de départ ni d'hypothèse de départ. Aujourd'hui, ces algorithmes sont disponibles, même souvent en open source. On peut avoir accès à ça et les mettre en œuvre relativement, je dis bien relativement, facilement. Et ça, c'est la deuxième caractéristique du big data, c'est qu'on a des algorithmes qui permettent de traiter toutes ces données. Quelque part, l'entropie de l'information, ou le information overflow, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupait beaucoup quand on travaillait sur les technologies de l'information, c'est plus qu'un vieux souvenir. On sait maintenant traiter des données. Ou plutôt, je devrais nuancer ça, les promoteurs du big data cherche à nous convaincre qu'on sait aujourd'hui traiter ces données. En réalité, ce n'est pas aussi acquis que ça, mais en tout cas, on va dans cette direction-là. Troisième caractéristique, très rapidement, c'est que c'est quand même le secteur privé qui est le plus dynamique et le plus actif dans le big data. Les plus gros big data, c'est des bases de données, tout ce qui est plus privé, hein, c'est Google, c'est Facebook, les fameux GAFA, Amazon, etc., etc. C'est ni le gouvernement du Canada, ni la Confédération suisse. Et c'est là où ça devient important, je pense, c'est les deux caractéristiques du big data, je ne sais pas s'il faut dire sociologique, mais en tout cas les traits qui sont les plus saillants pour comprendre ce que veut vraiment faire le big data, c'est que ces données qu'on récolte, sans savoir forcément ce qu'on va en faire, ou qu'on récolte avec un objectif annoncé au départ, on va pouvoir les utiliser pour des objectifs auxquels on ne pensait pas au départ, ou qui ne sont pas annoncés lors de la récolte. Hein? Et puis le corollaire de ça, c'est l'encouragement à prendre toutes ces données puis à croiser les bases de données pour multiplier encore les applications. Alors, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Quand on prend les données des cartes de fidélité autrement que pour proposer des produits corollaires aux individus, voilà, vous avez aimé ça, vous aimerez ça, vous aimez le gruyère, vous aimerez l'emmental par exemple, là on sort les données de leur contexte. Et des données de consommation, on va les utiliser pour faire de la prévention de santé, ou pourquoi pas tout autre, vous préparer, vous proposer des voyages. Si vous aimez tel type de... Ça veut dire que vous aimeriez aller en Thaïlande parce que vous aimez le curry, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Il y a vraiment un encouragement au croisement des données. Et tout ça, ça excite beaucoup les acteurs économiques qui voient beaucoup de potentiel là-dedans. Et qui font beaucoup de promesses, et puis ça va des promesses les plus nobles aux plus farfelues. Ça c'est la machine Watson d'IBM, dont l'une des premières applications c'est d'aider les oncologues à faire des diagnostics sur des cancers, et puis de suggérer des traitements. Voilà, il y a tant de pourcentages de chances que ce traitement fonctionne, compte tenu des données récoltées sur tel client. Relancer la consommation et la croissance, hein, notre bon vieil ami, prévenir le crime et les actes terroristes avec le big data, le profilage, machin, prévenir les catastrophes naturelles, augmenter l'égalité des chances parce que c'est l'accès au savoir à tout le monde, machin. Un projet encore plus fou, parvenir à la fin des théories, Voilà, les sociologues que nous sommes, les politologues que nous sommes, on peut les congédier, parce qu'on va avoir des bases de données qui auront enfin l'ensemble des données, la vérité, qui auront un accès direct à la vérité, puis qui vont pouvoir, grâce à des algorithmes super perfectionnés, faire émerger des théories qui seront plus vraies que jamais. Ça paraît délirant comme idée, mais c'est vraiment des idées qu'on trouve dans les discours des ingénieurs ou des gestionnaires ou des promoteurs du big data. Réinventer le savoir, et pourquoi pas libérer l'être humain. Alors pour vous montrer que tout ça, ce n'est pas juste de l'élucubration, on a eu un projet financé à hauteur de 23 millions de francs suisses, ça fait à peu près 30 millions de dollars canadiens, appel à communication, faire de la recherche sur le big data, avec deux phrases que j'ai beaucoup aimées dans leur appel à contribution. Ils nous disent « Les mégadonnées devraient en outre permettre de nouvelles avancées », on retrouve les promesses que je vous ai montrées tout à l'heure, notamment en médecine personnalisée, bon ça on comprend un peu plus comment, plus généralement dans le développement de services et de produits ciblés. Alors là vraiment, là où je bondis, parce que ça rentre en complète contradiction avec la loi sur la protection des données, pourtant c'est le bureau à côté, hein. Alors PNR, c'est le Programme National de Recherche, ce qui chapeaute ça, c'est le FNS, le Fonds National, et non pas le Front National. C'est marrant, même les employés du Fonds National, des fois, ils disent « je travaille pour le Front National ». Non, pardon, le Front National, c'est assez drôle. Il y a des colocations comme ça qui ont la vie dure. Le Fonds National de Recherche Scientifique, c'est le bureau d'à côté. Mais on dira vraiment qu'ils ne communiquent pas. Parce que quand ils nous disent « dans cette optique, plus il y a de données, et plus celles-ci sont partagées, mieux c'est », c'est vraiment en parfaite contradiction avec l'esprit même des lois sur la protection des données. Une deuxième phrase que j'aime bien aussi, les mégadonnées pourront en outre être utilisées pour mieux identifier les attaques, méchants terroristes, visant des infrastructures critiques du pays, les filières du crime organisé, les cellules terroristes, d'accord, pourquoi pas, j'aime beaucoup celui-là, ou encore les jeunes en danger, cette figure des jeunes dangereux. Alors je ne sais pas s'ils veulent lutter contre les jeunes en danger ou aider les jeunes en danger, même au niveau de la syntaxe, là ça pose problème, vous voyez toute cette... Tous ces clichés, toute cette fantasmagorie qu'on a autour des attentes sur le big data. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Il faut que je me presse un peu.
10 minutes maximum.
C'est bien, c'est très bien. Alors, big data, pourquoi pas, on ne peut pas non plus cracher dans la soupe et puis jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, j'ai voulu résumer en quelques points ce que j'ai appelé les péchés sociaux du big data. Premièrement, rappeler que le big data, c'est pas le savoir, ça peut développer une certaine forme de savoir, ou plutôt de connaissance. Le big data, bien souvent, il met en place des processus de discrimination. Il n'est pas démocratique, et cerise sur le gâteau, la vie privée, le concept de vie privée, n'est pas la solution miracle qui va nous permettre de nous protéger face au big data. Alors, le big data n'est pas le savoir, mais un savoir spécifique. On produit du savoir, mais ce n'est pas la même façon de produire du savoir que les voies traditionnelles ou les voies employées, la méthode, l'épistémologie des sciences naturelles, les sciences plutôt empiriques, la médecine, où il y a des règles, où on doit respecter certains standards, ou même les sciences sociales, où il y a des principes de validation, on travaille des hypothèses, etc. Pourquoi pas admettre que Big Data, ça peut amener un éclairage sur certaines choses, mais c'est un type spécifique de savoir qu'on aurait tort de mélanger avec les autres. Et c'est un type de savoir qui a des particularités, qui est obsédé par la recherche de corrélations, de similitudes, mais qui ne s'intéresse plus à donner des explications, à expliquer, à chercher un lien de causalité. Je vous donne l'exemple des bananes et des clous. C'est une connaissance, quelque part, de savoir que qui achète des bananes achète des clous. Et c'est une connaissance qui nous permet de prendre des décisions, ça peut être orienté sur l'action, mais par contre, on ne va pas s'intéresser à savoir pourquoi.
Ah si, je sais.
C'est vrai, tu sais?
Ah oui. Ah, c'est parce que les bananes, ça donne de la force, et les clous, ça en
fait. Ah ouais.
Pas mal.
Et cette tendance-là est renforcée par le fait, bien sûr, que ces fameux algorithmes aujourd'hui disponibles qui nous permettent de faire de l'analyse exhaustive de données, elles permettent avant tout à faire de la recherche de corrélation. Il y a le data mining, et puis KDD, c'est un type spécifique de data mining, Knowledge Discovery Databases, que j'aurais pu développer, mais que je mets ici simplement dans son contexte. Et si, c'est basé aussi sur certaines croyances, une drôle de croyance sur la neutralité des données. Que les données brutes, voilà, c'est des données brutes, on oublie qu'elles sont produites d'un certain contexte. C'est pas parce que, par exemple, vous achetez 15 kilos de saucisses de porc à Provigo que vous allez les manger le soir même. Peut-être que vous allez construire un artiste contemporain, vous allez faire une tour Eiffel en saucisses de porc, j'en sais rien. Non, on va faire des raccourcis comme ça dans cette production de connaissances. Et puis aussi, une autre croyance qui est assez intéressante, c'est, et on le voit beaucoup si on fait de l'analyse de textes, peut-être qu'on trouve ça dans le fameux texte de l'OCDE, d'ailleurs, qu'on analyse au GRISC, que l'exhaustivité des données aurait un effet correcteur sur les biais méthodologiques. Alors qu'on sait bien qu'en méthodologie, il suffit d'avoir suivi les cours d'introduction à la statistique ou en sciences sociales pour savoir que même si on interroge toute la population du Canada, si la question est mal posée, ben la réponse ne sera pas correcte. Il n'y a pas un effet magique de l'exhaustivité. Pourtant, c'est ce qui est défendu. C'est ce qu'on peut trouver dans le discours de Facebook, de Google ou de projets de collaboration. Voilà, étant donné qu'on sait tout sur tout le monde, ça peut être que vrai. Puis là, il y a une petite blague que j'aime bien, que je tire un petit peu de son contexte, mais c'est un peu comme si on se retrouvait dans cette situation. Alors, Joe Pines, c'est un vétéran du Vietnam qui était un présentateur de télévision célèbre dans les années 60, je crois, qui invite Frank Zappa, qui visiblement n'aimait pas beaucoup les artistes avec les hommes avec des longs cheveux, puis fait « Vous avez des longs cheveux, alors vous êtes une fille. Hein. » Ça peut être un raisonnement un peu à la big data. Et Frank Zappa qui lui répond, parce que le pauvre monsieur avait une jambe en bois, « Vous avez une jambe en bois, alors vous êtes une table. » Mais je trouve que ça illustre assez bien le genre de bêtise. Si on part du principe que le big data, parce que c'est exhaustif, parce qu'on a plein de données, on peut créer du savoir, mais peut-être c'est ce genre de savoir auquel on risque de se confronter, ces absurdités-là. Voilà, je dois faire des choix, oui. Alors là, je dirais très rapidement, le site, ça c'était, je crois que ça l'est encore, le site le plus utilisé de dating sur Internet. Ils ont récolté le détail du comportement des utilisateurs sur leur site pendant plus de 15 ans. Et puis, on a l'un des ingénieurs ou deux ingénieurs de OkCupid qui ont analysé ça, puis qui ont réinventé un discours de vérité sur la psychologie, sur la sociologie des relations amoureuses, etc. Puis bon, c'est pas inintéressant, ils disent des choses intéressantes, mais parfois ils affirment des choses qui sont vraiment, vraiment grossières et surtout sans faire aucune référence aux sciences sociales traditionnelles, j'ai envie de dire. Hein, dans Fantasia, là, le savant. L'apprenti sorcier, voilà, c'est ça, exactement. On a un discours, ils disent, voilà, le monde a changé, nous on a des données, on est exhaustif, c'est vraiment intéressant à lire ce petit bouquin. Ils vont nous dire la vérité sur la condition humaine et sur les relations amoureuses aujourd'hui, en 2000, ce bouquin est sorti en 2014, je crois, en 2014, et c'est assez effarant. Le problème, c'est que tout ça, c'est un grand pouvoir. Hein, savoir, c'est pouvoir, hein, comme on dit. Le fait d'avoir ces grandes entreprises qui ont autant d'informations sur une aussi grande partie de la population, ça leur donne énormément de pouvoir. Ça donne un pouvoir à des acteurs spécifiques pour augmenter les profits, prévenir les maladies, réduire les risques, etc. Ce qu'on ne peut pas tellement leur reprocher, finalement, est-ce qu'on peut reprocher à une entreprise privée d'analyser les données qu'elle a en sa possession pour augmenter les profits? C'est pas illégitime en soi, on ferait probablement la même chose, mais c'est tout aussi légitime, et c'est même une obligation, je pense, qu'on a en tant que chercheur en sciences sociales, de se demander qui sont ces nouveaux acteurs, puisqu'ils tendent à avoir de plus en plus de pouvoir, et quelle est leur légitimité. Hein. Le problème, c'est qu'on ne les a pas choisis, on ne les a pas élus. On a des acteurs qui prennent un pouvoir considérable, qui peuvent changer... On peut même parler des élections américaines. Hein. Peut-être que ça n'a pas été démontré, que ce n'est certainement pas le cas. On pourrait même imaginer que techniquement, ça aurait été possible. Google aurait pu faire en sorte de filtrer certaines informations, enfin jouer en faveur d'un candidat par rapport à l'autre. Le patron de Google, on ne l'a pas choisi démocratiquement, puis il n'y a pas de procédure d'impeachment. Et peut-être qu'au fond, il y a plus de pouvoir que l'aura Donald Trump. Bon, j'espère que le patron de Google n'ait pas accès au bouton nucléaire quand même. Et surtout, le big data, il est discriminatoire. Alors, oui, je vais peut-être aller là-dessus pour ne pas perdre trop de temps. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est un montage. Hein, vous n'allez pas vous trouver à ce type de configuration. Mais Amazon, que vous connaissez bien, si vous choisissez, vous intéresser à un DVD d'un film de type cinéma d'auteur, il y a peu de chances que l'algorithme d'Amazon vous propose la collection de Chuck Norris ou le Action 4-Pack. Ça, bien évidemment, c'est parce que c'est en dehors de vos habitudes et de votre bulle culturelle. De même, si votre truc, votre tasse de thé, c'est American Idol, la nouvelle star, il y a peu de chances qu'on vous propose du Richard Strauss, du Debussy Edition, parce qu'il n'y a pas de politique culturelle chez Amazon qui dit, voilà, on a une politique culturelle de faire en sorte que les classes populaires aient accès aussi à la culture légitime, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est vendre plus de choses. Il y a plus de chances de vous vendre des biens culturels, enfin de vous vendre des choses, si on vous propose des trucs qui sont déjà dans vos attentes. Si bien qu'on a presque une sorte de panoptique commerciale, en quelque sorte. Voilà, je veux dire ça très grossièrement. En gros, ben, si vous aimez la merde, on va vous redonner de la merde. En gros, c'est un peu ça. Pourquoi pas ? Parce qu'au fond, on peut dire, d'un point de vue individuel, ben, les gens sont très contents qu'on leur propose des choses qui correspondent à leur goût. Mais quand même, là où c'est embêtant, si on prend un recul sociologique, c'est que ça limite la possibilité de mobilité sociale. Parce qu'on sait bien, en sociologie, que la mobilité sociale ne passe pas que par l'accroissement d'un capital économique, mais passe aussi par le fait de s'aménager un capital culturel. Hein, c'est l'affaire du bourgeois gentilhomme, là. Vous avez beau être riche, si vous voulez assurer la pérennité de votre ascension sociale, vous devez aussi développer, avoir accès à ces biens culturels dits légitimes ou reconnus en tant que tels par la classe sociale supérieure qui va considérer ça comme des biens culturels légitimes. Et ça risque de limiter ça. Alors là, un exemple que je ne peux pas m'empêcher de vous passer, et c'est en fait ces algorithmes qu'on appelle les systèmes de recommandation, les algorithmes de recommandation. On les voit pas seulement dans Amazon, mais aussi dans des domaines un tout petit peu plus inattendus, dont celui-là. Vous allez comprendre le sous-titre. Ah, mais il faut le son. You want to be careful because they track what you beat off to. If you go up to the top of YouPorn next time you're on YouPorn and click on recommended for you, they track what you beat off to. It's like Amazon. People who beat off to this also beat off to this because a lot of that stuff you're not into. Alors ces algorithmes de recommandation agissent vraiment dans plein de niveaux différents, dont celui de la sexualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de la régulation sociale par la pornographie, etc. etc. mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui fonctionne de façon délibérée sur ces sites spécialisés. Et on peut supposer que ça a aussi un effet sur la façon de se construire en tant de construire son identité. Et le dernier point, c'est que malheureusement, je pense que la vie privée n'est aujourd'hui, en tout cas dans sa forme actuelle, la notion de vie privée, ou plutôt la façon dont elle est régularisée par le législateur, n'est pas la solution parce qu'elle est en contradiction avec ce qui est en train, vraiment clairement, ce qui est en train de se passer avec le développement du big data. Parce que la protection de la vie privée, heureusement et malheureusement, quelque part, elle repose toujours sur le consentement des utilisateurs. Vous êtes d'accord que finalement, le consentement, on est obligé un peu de le donner par défaut. Hein. Quand on installe des applications sur son téléphone, il n'y a pas si longtemps, ce téléphone, j'ai dû le changer parce qu'il y avait un problème. Bon, là, il y a ma filleule qui l'a cassé, et puis je vais devoir en acheter un autre, je vais devoir refaire ça, installer toutes les applications. Ça m'a pris déjà 2 heures pour installer les applications, mais j'ai passé mon temps à faire oui, j'accepte. On ne peut plus compter sur ce consentement du consommateur, et surtout... Alors là, j'ai mis les lois, la protection des données suisses, mais elles sont très similaires à celles qu'on trouve au Canada, celles qu'on trouve dans la plupart des pays européens, celles qu'on trouve en Australie. pour la petite histoire, aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de loi sur la protection des données, ce qui est quand même assez hallucinant, mais c'est comme ça. Le principe de base, c'est on doit s'assurer, en tant que fournisseur de services, que les individus vont savoir qu'est-ce que je vais faire avec les données que je récolte sur eux. Alors clairement, puisque Big Data, ben, c'est de récolter des données puis réfléchir ensuite de quoi on va en faire, ce principe-là n'est plus respecté depuis longtemps, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, là aussi, ça ne fonctionne plus, et pas de récolte superflue de données, puisque Big Data, c'est un aspirateur à données, ça ne fonctionne plus. Et il y a vraiment une grande incohérence entre les projets futuristes, actuels de développement du Big Data et toutes les promesses qu'on nous fait. Hein, je vous rappelle, plus il y a de données et plus celles-ci sont partagées, mieux c'est. C'est en contradiction totale avec ce que défend l'ancien commissaire à la protection de la vie privée en Suisse, s'appelle le préposé fédéral à la protection des données, qui est bien toujours les noms compliqués en Suisse. Alors, pour la petite histoire, il s'est fait. Alors, lui, c'était quelqu'un qui, la première heure, qui défendait le droit à la vie privée, etc. Il a commencé à devenir un peu trop critique, à devenir un petit peu trop gênant. En gros, on n'a pas renouvelé son contrat. On a mis une autre personne. Donc, tenez-vous bien, le commissaire actuel à la protection des données, c'est l'ancien vice-directeur de la police fédérale suisse. Alors que le bureau de protection des données est censé être un bureau indépendant et qui doit agir en toute indépendance, ben voilà, permettez-moi de penser qu'il y a un petit problème ici, et puis là c'est sur le plan de la police, et puis les milieux libéraux, néolibéraux, même l'extrême droite aussi disaient ah, ben c'est dommage, plutôt que l'ancien sous-chef de la police, on aurait dû mettre un économiste, on aurait dû mettre quelqu'un qui représente les entreprises de l'internalisme. Voilà. La messe est dite, j'ai envie de dire. Alors, je pourrais arrêter là, si tu as besoin encore de...
Ben oui, parce que je pense qu'on va donner la parole.
Ouais.
Merci beaucoup, Samy.
Merci à vous.
Tu peux revenir au milieu, là.
Revenir au milieu ?
Ouais, parce que tu vois...
Ah ! Bon,
c'est à vous la parole. Pas tout le monde en même temps.
Bonjour, je me une question. Quand tu parlais de techniques de contrôle du corps et de l'attente en magasin, est-ce que tu penses que ça c'est stratégique ou c'est une efficacité collatérale qu'on finisse par accepter parce que derrière ça fait patienter tout le monde, enfin, on la sort souvent parce qu'on ne veut pas gêner les autres personnes. Parce que je sais par exemple, Franck Cauchois, il a beaucoup montré dans les dispositifs de captation que ça avait pu être pensé, notamment qu'on mettait les bonbons devant les caisses, parce qu'on savait que quand le gamin piquait une crise devant le public, et ben, le parent ne pouvait pas réagir trop difficilement, il prenait les bonbons. Donc tu penses qu'il y a ce contrôle-là comme stratégie, ou c'est des effets bénéfiques au supermarché, mais qui ne sont pas contrôlés?
Bah, dans ce cas précis, j'ai plutôt l'impression que ça n'a pas forcément été prévu à l'avance. Enfin, c'est difficile de dire. Peut-être même le coup des bonbons qui sont à même le sol. Peut-être qu'on a mis les bonbons à même le sol parce que les enfants pouvaient se servir. Puis en fait, on se rend compte que ça marchait encore mieux que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Il y a de la place pour le...
Bah là, pour, c'est théorisé dans les magazines professionnels, quoi, en fait. Il y a de grandes chances, on peut faire l'hypothèse que si on leur donne accès, vous allez avoir plus de bonbons, etc. Mais ça a été testé, ça.
Oui, oui, pas seulement des hypothèses, mais des choses qui ont déjà pu être observées. C'est aussi le marketing, c'est aussi un peu une science empirique, hein. On fait des découvertes, et puis... Mais oui, c'est bien que tu cites Franck Cauchois, parce que je me suis beaucoup... beaucoup entretenu avec lui sur ces sujets-là. C'est un type formidable là, dans le champ de la sociologie, de la consommation, du marketing. C'est quelqu'un à recommander plutôt deux fois qu'une. Je crois pas qu'à un moment je le cite, hein, mais il est très présent dans mon travail. Il a corrigé mon manuscrit de mon bouquin. bouquin, d'ailleurs.
Je me demandais en fait si tu croyais que ce qui s'est passé avec justement les élections des États-Unis, cette polarisation-là du discours était foncièrement comme causée par le Big Data, ou si c'était juste parce que les gens sont devenus. Parce qu'en fait, si les gens ont accès justement à des trucs plus ciblés pour eux autres, ils ont tendance à se radicaliser dans leur position. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a vraiment causé cette espèce de côté gauche, droite, méchant, gentil aux États-Unis, c'est causé par les élections? C'est vraiment le Big Data qui a fait ça?
Alors, ça dépend comment on entend la question. C'est le big data qui a fait ça? Est-ce que c'est le big data qui a fait ça de façon émergente, de façon un peu incontrôlée, par le fait que on cible les gens, puis le big data, en tout cas, il a pour effet d'enfermer les gens dans leur bulle culturelle. Donc, si tu, entre guillemets, tu consommes du Trump, tu vas voir surtout du Trump, tu auras de moins en moins accès aux arguments contradictoires de l'autre partie. Ça, c'est un effet. Maintenant, est-ce que ça a été conçu exprès pour ça? Je ne pense pas. Le but, au début, c'est un but relatif qu'on comprend bien, hein, c'est de donner aux gens ce qu'on croit qu'ils vont rechercher. C'est l'optimisation de la pertinence des informations qui sont recherchées. Je ne pense pas que les effets pervers aient été pensés à l'avance, ni même qu'il y ait eu manipulation. Je ne pense pas non plus que Google, par exemple, a fait en sorte. Parce qu'on sait aussi qu'il y a relativement peu de chances que quelqu'un qui est déjà bien, qui a ses opinions bien trempées, même si on lui propose des argumentaires, je ne sais pas, pro-Hillary, par exemple, change d'opinion, mais ça reste ouvert. Mais effectivement, en termes de théorie des médias, il y a quelque chose qui a fondamentalement changer. Hein. On n'a plus seulement le débat à la télévision avec la possibilité quand même de voir le débat contradictoire, mais on reste parmi les siens.
Je ne sais pas si tu avais vu, mais il y a une espèce d'algorithme, je pense que ça fait 3 élections ou 4 qui prévoient en ligne, puis 4 jours avant l'élection de Trump, puis il avait prévu l'élection de Trump, puis il avait raison. Puis en fait, je me demandais si justement ce genre d'algorithme-là ne pouvait pas réorienter les discours des politiciens en vue d'être élu, qui est allé dans la post-vérité et les sophismes.
Ah oui, c'est à la mode là aujourd'hui. Oui,
mais ben c'est ça, c'est comme
le concept de post-vérité. Hein.
Ouais. De moi à la mode. Mais en fait, ça, je me questionnais à savoir si c'était pas la prochaine étape de cette histoire-là, d'aller dans quelque chose qui n'est pas pour le bien du public en politique, mais bien pour. De bien d'une seule personne ou de quelques entreprises qui se regroupent pour avoir un candidat qui se
absolument
ouais. Dans leur tête de solution.
Non, mais là, il y a des vraies questions et qui sont un peu inquiétantes vis-à-vis de l'argument selon lequel le big data n'est pas démocratique. C'est que dans le cas de Google, par exemple, on est obligé de lui faire confiance. Quand Google dit non, notre algorithme est neutre et puis on n'a pas favorisé un candidat sur l'autre, comment on peut faire pour vérifier ça? C'est pas, tous ces algorithmes-là sont peu transparents. On peut faire certaines formes de reverse engineering, sans doute même ça a été fait, de vérifier que les algorithmes sont. De toute façon, les algorithmes ne sont pas neutres par essence, mais en tout cas qu'ils n'ont pas été influencés par des décisions, une décision humaine de favoriser tel candidat ou tel candidat. Mais le risque existe. Il faut vraiment qu'on pense à. Idéalement, il faudrait que ces algorithmes s'ouvrent. Et on peut comprendre aussi l'intérêt d'une entreprise à garder son algorithme secret parce que c'est ce qui fait la fortune de Google. Il y a des droits d'auteur, c'est le respect industriel, machin. Mais qu'au moins, on puisse. On pourrait imaginer, ça reste ouvert, hein, on pourrait imaginer un groupe de contrôle qui vérifie que l'algorithme de Google n'est pas orienté en fonction de différents intérêts politiques de Google, par exemple. Ça, à l'heure actuelle, ça n'existe pas.
Mais en fait, ce dont tu parles, c'est un peu le micro-ciblage. Je pense que ça, du côté, dans la sphère politique, en tout cas, ça se fait certainement. Je me demande, est-ce qu'il y a un croisement entre ces cartes de fidélité-là, par exemple, ce qui se fait dans le domaine de la consommation, puisque les partis politiques essaient d'implanter c'est un questionnement pour moi, mais il me semble que, tu sais, on parle beaucoup du fait qu'on vote un peu comme on achète, que c'est comme une forme de consommation. Je pense qu'en tout cas, c'est déjà là dans la sphère politique, là, cette volonté-là de cibler directement l'électeur comme un consommateur.
Alors ça a été fait, mais avec les outils à disposition. Il faut juste avoir de l'argent pour se payer ces outils-là, mais la campagne d'Obama, par exemple, il a beaucoup utilisé, quand on dit il a utilisé Big Data, une espèce de nébuleuse, on ne sait pas ce que c'est, mais concrètement, il a utilisé tout ce qui était disponible, là, d'acheter des mots-clés sur Google, d'acheter les mots-clés sur Facebook, de faire en sorte de savoir que tel mot-clé était associé. Je crois qu'il a particulièrement ciblé les électeurs qui hésitaient avaient certains profils, ils s'intéressaient à telle chose, à tel produit, à tel. On peut assez facilement, je pense, en quelques jours de brainstorming là, en analysant un peu les études anthropologiques sur la consommation, définir des profils, des orientations politiques en fonction des patterns de consommation, puis faire en sorte que, voilà, en gros, c'est ça, ceux qui ont un profil typique qui sont au centre, par exemple, ou des indécis, je vais leur envoyer des vidéos qui font la promotion de la politique d'Obama. Ça a été fait, et ça a marché. Alors pour Trump, on ne sait pas encore tout à fait, parce qu'on n'a pas encore assez de recul, mais il semblerait bien que les mêmes stratégies ont été mises en œuvre également. Mais pour Obama, c'est sûr. Et c'est transparent même, parce que c'est accessible. Bon, ça coûte très cher. Parce que acheter des mots-clés populaires, vous pouvez essayer. Vous allez sur Facebook/advertisement, ou bien vous cherchez dans les liens, puis vous dites, voilà, j'aimerais afficher telle publicité, puis vous achetez des mots-clés, par exemple, je ne sais pas, je vends... Admettons que je sois revendeur de ce type de carnet, je ne sais plus comment il s'appelle, Moleskine, je crois, c'est ça? Ouais. J'achète le mot carnet, noir, chic, ou je ne sais pas quoi, ça fait une prévision d'ailleurs du prix que ça va me coûter. C'est la même chose chez Google, puis ça peut aller de 10 $ à 100 000 $, suivant les mots-clés. Si vous achetez Internet, fait en sorte que tout le monde qui tape Internet dans Google ait une publicité, évidemment ça va coûter plus cher que si vous achetez le mot-clé Zorglub, par exemple.
Je pense que je vais bien formuler ma question, mais tes observations dans l'espoir sont transposables dans un contexte culturel différent. Mm-hmm. Si je prends par exemple les pays de l'ex-Union soviétique, la transparence du consommateur.
Ouais.
Dans un ancien état policier, est-ce que c'est le fait d'être dans un pays occidental, en guillemets démocratique, avec des habitudes de consommateur, que tu as une relation avec une marque, etc. Est-ce qu'ailleurs, ça pourrait être, je sais pas, en Afrique subsaharienne ou au Kazakhstan, ou est-ce que c'est réplicable?
Oui, effectivement, il y a la question de la confiance. On parle souvent ce concept de servitude volontaire. On dit oui, George Orwell, il avait raison, puis il avait tort. Quelque part, le Big Brother, il existe. Mais le Big Brother, c'est plutôt un Mickey Mouse, en fait. Puis la surveillance, on y adhère. On n'est pas forcé de donner des informations sur soi, on les donne volontiers. Mais une des choses qui fait qu'on les donne volontiers, c'est qu'on a confiance envers notre gouvernement. On part du principe que le gouvernement démocratique dans lequel on vit, il ne va pas se retourner contre nous. Puis on peut imaginer que si on était déjà aujourd'hui dans un gouvernement totalitaire, on aurait peut-être plus de réticence à donner les informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a confiance, les données sont transmises, et puis ça peut, je ne sais pas, aux États-Unis, hein, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut varier du jour au lendemain, puis les données, elles sont déjà là. On a déjà récolté des données, on peut déjà savoir que... Voilà, tel gars, il est à gauche, que telle personne, il a critiqué Trump, ou il a fait telle chose, ou il a milité pour défendre le droit à l'interruption volontaire de grossesse, etc. Le mal est fait. C'est aussi le problème que les données sont indélébiles. Donc même si on n'a plus confiance maintenant, on a eu confiance hier, et puis les données sont déjà là. Mais effectivement, la relation de la confiance, elle est importante. Puis, c'est souvent une réponse qu'on... C'est, oui, c'est une question qui vient souvent, dans le sens que aujourd'hui, quand on dit voilà, j'ai rien à cacher, hein, c'est un peu la réduction de la dissonance cognitive, parce qu'on dit bon voilà, on est surveillé de toutes parts, mais en même temps j'ai besoin de ces services, comment je fais? Alors on est obligé de se convaincre qu'au fond les dangers sont pas si grands, puis qu'on a rien à cacher. Alors de nouveau, c'est vrai et c'est faux. Dans l'absolu, c'est faux, on a tous des trucs à cacher, sinon je vous dirais, bah, enlevez votre chemise, ou montrez-moi votre compte en banque, ou dites-moi ce que vous avez fait hier soir à telle heure, etc. Vous allez refuser parce que c'est votre vie privée, donc vous avez des trucs à cacher, pas dans le sens négatif du terme, mais simplement parce que, voilà, vous avez droit à votre vie privée. Mais il suffirait que un gouvernement d'extrême droite ou un État policier prenne le pouvoir et puis on frôle la catastrophe. Imaginez l'Allemagne de l'Est, là, la Stasi, qui aurait accès à des outils comme ça. Ou Pinochet au Chili qui aurait eu accès aux bases de données, je sais pas moi, des magasins, ou tous ceux qui ont acheté le capital de Marx. Puis on sait où ils sont par GPS, enfin ce serait encore plus... encore plus terrible que ça l'a déjà été.
Est-ce qu'on parle de le gardien, le garde-fou, si on livre des données à caractère commercial,
ouais,
qui peuvent traduire des habitudes, des intérêts, mm-hmm, à la bibliothèque municipale, puis je loue capital, puis je loue que faire, puis à un moment donné, si ces données-là, ça se retrouve dans la sphère politique, mm-hmm, ben, à un moment donné, c'est pas, je suis profilé.
Oui.
Mais je me dis au départ, bon, j'ai une confiance, comme tu dis, mm-hmm, l'État protecteur aussi.
Ouais. Ouais.
Et ça, c'est
ouais,
des choses qui peuvent être. Le but de l'État, mais lui, c'est hors mécanique.
Mm-hmm. Non, et puis, il peut y avoir une discrimination, même, parce que ça, c'est vraiment le scénario catastrophe, mais on est déjà discriminé sans même le savoir. Par exemple, quand les agences de renseignement économique font des enquêtes sur les gens qui font des demandes de crédit, par exemple, et qui vont chercher des informations, peut-être que vous avez mis quelque chose sur un site internet ou un truc sur Facebook ou vous avez fait une transaction de paiement, etc., qui a fait tout à fait injustement parce qu'il y a pu avoir des mauvaises interprétations qui vous met dans la catégorie orange plutôt que vert, et puis on vous refuse votre crédit, puis on vous explique pas pourquoi. Donc là, c'est pas qu'on va vous tirer dessus dans un peloton d'exécution, heureusement, mais vous allez déjà subir une discrimination négative et injuste. Et le problème, c'est que vous saurez pas pourquoi.
C'est 4K.
Ouais, ça l'est, effectivement.
Mais est-ce qu'on quitte pas le bilan politique, là, si on sait pas pourquoi, ou qu'on refuse? Je pense entre autres à certains auteurs dans la foulée de Antoinette Rouvroy qui parle de data,
oui,
de data politique et donc de data pouvoir.
Ouais.
Est-ce qu'on n'est pas en train de. Surtout si. Je reviens sur la phrase que vous aviez dit, que si on le refuse quelque chose, mais on ne m'explique pas pourquoi.
Mm-hmm.
On me le refuse, mais je ne peux même pas changer mon comportement, je peux. Il n'y a rien que je puisse faire, moi, mm-hmm, comme individu, comme cadre, pour modifier mon comportement de façon à l'obtenir. Il est trop tard. Les données sont déjà,
ouais,
ont déjà parlé pour moi et qu'on ne quitte pas l'aspect du milieu politique.
Ah, pour rentrer dans celle du data politique,
voilà,
c'est ça que vous suggéreriez.
Oui, ce n'est que ouais, suggestion.
Ouais. Non, c'est intéressant parce que le data politique, finalement, ça serait une sous-branche du géopolitique ou une version actualisée du géopolitique. Moi, j'aurais tendance à dire non, qu'on est toujours dans le biopolitique, mais que c'est un biopolitique qui aujourd'hui repose sur les données. Mais j'ai pas l'impression que dans le biopolitique, on était forcément qu'il y avait un devoir de mettre au courant tel ou tel individu, pourquoi il avait été exclu d'un service, ou quelqu'un qui, par exemple, vise une mobilité sociale ascendante puis qui n'y arrive pas, il ne va pas forcément comprendre pourquoi, parce que ça se joue dans le quotidien, ça se joue dans la façon d'exprimer son habitus, je ne sais pas, c'est des choses qui sont très... c'est des micro-sanctions sociales qui peuvent être positives ou négatives. Vous allez dans une soirée pour vous, voilà, pour vous faire du réseau social, parce que ce sera utile pour votre plan de mobilité sociale ascendante, pour puis en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas pris la bonne cravate, machin, puis on se moque de vous, puis un petit sourire. Ça, déjà, c'est une forme de discrimination, puis de biopolitique peut-être très diffuse comme ça. Puis c'est pas dit qu'on va pas vous dire, voilà, non, écoute, t'as pas la bonne cravate, rentre chez toi, puis quand t'as la bonne cravate, tu rentres. Mais c'est une bonne question.
À force de si on. Ben comme vous mentionnez ceux qui trafiquaient les cartes de fidélité, ou en fait qui essayaient d'échanger les 3000 points à la carte verte.
Oui.
Donc là, on joue sur les données elles-mêmes et non pas sur mon comportement. Mm-hmm. Je ne sais pas si on ne pourrait pas en venir un jour à acheter des données. Mais que les données elles-mêmes deviennent quasiment plus importantes que mon comportement réel.
Ben, ça dépend du contexte. Dans certains contextes, c'est le cas.
Oui. Donc, ma capacité à modifier les données deviendrait plus importante que ma capacité à modifier mon comportement.
Ouais. Sauf que modifier ces données, c'est compliqué. Ouais. C'est même parfois impossible suivant les cas. Là, j'ai un exemple. J'ai commencé à bricoler avec Internet en 92, je crois, quand j'étais... oui, c'était mon premier job en tant qu'ingénieur, parce que j'étais ingénieur en informatique dans une vie antérieure. Alors, il n'y avait pas encore... le système web commençait à se développer, là, parce qu'il était développé par le CERN à Genève, en Suisse. Mais je n'avais pas encore réussi à l'installer sur l'ordinateur. C'était assez compliqué à cette époque-là. Mais il y avait déjà certaines interfaces qui permettaient d'utiliser le réseau TCP/IP, le réseau Internet. Puis il y avait les newsgroups. On trouve ça encore, les newsgroups. Et il y avait un groupe qui s'appelait rec.humour.fr. On pouvait mettre des blagues. Puis bon, je crois, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans à cette époque-là. Puis j'aimais bien raconter des conneries. Bon, ça allait encore, mais j'avais mis une blague sur les aveugles, c'était oui, qu'est-ce que dit un aveugle quand on lui donne du papier de verre? Ah, bon sang, c'est crypti, ça faisait rire à cette époque-là. Mais le truc, c'est que ça y est toujours. Si vous cherchez bien sur Google, vous mettez Sammy Cole Newsgroup, ce sera peut-être à la 15e page, disons, ce ne sera pas sur la première page, vous allez le retrouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je postule pour être, je ne sais pas, il y a un poste. De gestion de l'association de défense des intérêts des aveugles, par exemple, puis qui vont tomber là-dessus, alors que j'étais un autre homme, quoi. Ben, ça va pas. Le poste, il va me passer sous le nez. Et il n'y a pas moyen d'enlever ça. Peut-être qu'un jour, ils vont quand même flusher les serveurs, là, mais le protocole newsgroup lui-même, il est fait de façon à ce que tous les messages sont copiés sur différents serveurs. Il n'y a pas un serveur centrale qui contient toutes les données, donc il faudra dynamiter tous les serveurs newsgroup, ou un jour que newsgroup disparaisse, mais même si j'appelais une compagnie, enfin je mandatais une compagnie spécialisée, il y a une compagnie qui s'appelle, il y en a plusieurs, hein, mais une qui s'appelle Reputation Defender, dites voilà, j'aimerais effacer les trucs qui me plaisent pas, et puis, mais ils n'arrivent pas à tout effacer à 100%. Ce fameux droit à l'oubli qui a fait débat l'Union européenne, ça concernait Google principalement, ce serait bien qu'il soit généralisé, qu'on soit maître de nos données. Mais on n'en prend pas la direction, malheureusement. Puis même que ça a été accepté à l'Union européenne, qu'on peut écrire à Google puis demander d'effacer tel lien, il suffit d'aller sur google.com et puis il y a encore. Parce qu'il y a aussi la question, le problème de la territorialité. Non, on n'est pas sorti de l'auberge.
Alors justement, dans les derniers échanges, ça me fait rebondir sur la partie où tu disais que la vie privée n'était pas la solution. Tu reviens là-dessus, est-ce que j'en parle là? Parce qu'il me semble que tu démontres bien qu'elle est en péril, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça a beaucoup de combats malgré tout, et notamment d'essayer de sur la base de l'idée d'une nécessité d'une vie privée à défendre,
ouais.
envisager des protocoles, des lois, etc., qui permettraient de dire on peut récupérer, mais on ne peut pas faire de traitement. Et là, traitement, systématiquement, doit justifier devant, tu parlais tout à l'heure de commissions indépendantes qui pourraient analyser les différents algorithmes. Toi, c'est perdu de toute façon.
Non, c'est pas perdu parce que en fait, il faudrait être suicidaire pour s'en passer. Parce que même si c'est dépassé, même si ça peut même avoir des effets pervers, en fait, le concept de vie privée, il peut même avoir pour conséquence de renforcer la surveillance plutôt que de lutter contre la surveillance. Mais même cela pris en considération, force est de constater que c'est malheureusement le seul outil qu'on a aujourd'hui pour limiter les dégâts. Il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre la surveillance et de lutter contre les abus de la surveillance. Et on doit lutter pour protéger ce peu qu'on a à disposition, même si ce n'est pas suffisant. Parce que l'un des principaux problèmes de la vie privée, c'est que c'est un concept qui est très individualiste. C'est je protège ma vie privée à moi contre des envahisseurs potentiels qui sont l'État, Google... le magasin qui a la carte de fidélité, etc. Mais ça empêche de penser la problématique en termes de rapport de pouvoir. Parce que le problème de la protection de la vie privée, c'est un problème collectif. C'est pas un problème individuel. Et à force de défendre une conception très individualiste de la vie privée, puis le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire autrement. Parce que dans la vie privée, ben, y a privé, c'est intrinsèquement lié. On a beaucoup de peine à dépasser cette limitation-là. Et c'est aussi... Une autre raison, c'est que souvent le concept de vie privée, il sert un petit peu de prétexte éthique ou de cache-sexe pour les problèmes. Plusieurs fois, on m'a convoqué pour que je fasse une analyse en tant qu'expert de la vie privée, que c'était OK, machin. Et eux, tout ce qui les intéressait, c'était le temple, oui, OK, suivant les standards... la vie privée, c'est bon, puis les industriels vont considérer que dès le moment où on considère que ça ne contrevient pas de façon majeure au principe de la loi, à ce moment-là, c'est OK. Mais le problème, c'est que ça a beau, quand même dans la plupart des cas, respecter les lois sur la protection de la vie privée, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas des situations de rapport de pouvoir qui sont graves et qui créent de la discrimination et puis qui renforcent, qui cristallisent les disparités sociales. Donc c'est embêtant. On en vit, dans la littérature, il y a tout un champ spécialisé là-dedans. Ça s'appelle les privacy scholars, ceux qui sont spécialisés vraiment dans l'analyse. Voilà, c'est quoi ? Il y a des historiens. Il y a des juridiques qui sont spécialisés dans la doctrine juridique, des praticiens, etc. Puis il y a des grandes discussions là-dessus. Il y en a qui disent maintenant la vie privée, le concept de vie privée, c'est contre-productif parce que en fait on a la fausse impression que quand on parle de vie privée, on règle le problème et puis on évacue le problème et puis après on va de l'avant. D'autres qui disent oui, je suis d'accord, mais quand même faut pas qu'on l'abandonne parce que c'est le dernier garde-fou qu'on a pour c'est la seule réponse légal et philosophique même qu'on a pour limiter les abus en matière de surveillance. C'est embêtant. Moi, je suis tout le temps... Je suis constamment tiraillé par rapport à ça. Même quand j'ai préparé ma présentation, parce qu'en fait, j'ai plusieurs slides qui décomposent la vie privée, parce qu'en plus, il y a différentes définitions de la vie privée, il y a une définition juridique qui ne correspond pas à ce que les gens mettent subjectivement dans leur vie privée, puis on voit qu'avec ces différences de définition, ça finit par créer des effets pervers, machin, etc., etc. Enfin, c'est super embêtant. Et quand je traite des sujets qui ont à voir avec ces questions de la surveillance, je suis tout le temps en hésitation de dire est-ce que je vais parler de la vie privée, parce que c'est un sujet qui est important, ou est-ce que je vais ne pas parler de la vie privée pour pouvoir enfin avoir de l'espace pour parler de finalement ce qui compte vraiment, c'est les rapports de pouvoir, c'est les relations entre savoir et pouvoir. Ce que le discours sur la vie privée a tendance à masquer un petit peu, puisqu'il ramène toujours, il a tendance à ramener toujours la problématique au niveau individuel. Et je ne crois pas qu'on arrivera à s'en sortir en ramenant toujours ça à un niveau individualiste. Je ne sais pas si je suis clair. Non,
je vois bien, mais... ouais.
C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Mais en tout cas, voilà, si en tant que citoyen, si je devais voter là, puis pour ou contre le renforcement des lois sur la vie privée au Canada ou en Suisse, etc., je voterais pour. C'est évident, par défaut. Ouais. D'accord.
Mais vous utilisez l'exemple des cartes cadeaux, qui sont utilisées pour surveiller les comptes bancaires. Est-ce que c'est vrai, mettons, si avec ma carte de crédit, ma carte de débit, est-ce que j'aimerais me mettre à tout payer cash?
Ouais.
Est-ce que, tu sais, mettons, des jardins, est-ce qu'ils peuvent garder que, oups, là, il y a une assurance vie, une carte, je mange chez McDo.
Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Ben, actuellement, c'est pas. Il y a encore des petites timidités par rapport à ça. Ça se fait pas encore, mais ça risque bien de se faire bientôt. C'est dans les projets prospectifs des réassureurs. Vous voyez ce que c'est, les réassureurs, les grosses boîtes qui assurent les assureurs. C'est-à-dire que l'assureur chez qui vous allez, l'assurance que vous achetez chez Desjardins, par exemple, ouais, eux-mêmes, ils s'assurent auprès d'un grand réassureur. Et un des grands réassureurs mondiaux, je crois qu'il y en a deux, il y a un américain, là. D'ailleurs, il s'était pas mal planté lors de la crise financière de 2008, mais il s'est sorti une petite santé. C'est AEG, je crois. Ou peut-être ils ont disparu, je ne me rappelle plus très bien. Ils ont disparu, carrément. Ah, ils ont été sauvés.
Ouais.
D'accord, too big to fail. Et je ne sais plus si c'est les premiers ou les deuxièmes. En tout cas, le deuxième, peut-être même le premier, c'est Swiss Re. C'est une entreprise suisse. Et eux, ils sont en train d'étudier ce genre de choses. Dans quelle mesure on va pouvoir faire en sorte de créer un système d'assurance ultra personnalisé. Vous allez payer votre prime d'assurance en fonction du risque que vous représentez vraiment vous. Comme ça se fait déjà pour l'assurance automobile. Chez certains assureurs, vous avez la possibilité de brancher une boîte noire dans votre voiture qui va mesurer votre comportement si vous allez trop vite, pas assez vite, si vous avez tendance à conduire comme ça, si vous roulez en campagne ou sur une autoroute, machin, ça vous crée un profil de risque et vous payez une prime en conséquence de votre comportement. Et il y a un tabou qui est en train... On ne pouvait pas imaginer ça il y a 5-10 ans. Et là, il y a un tabou qui est en train d'être percé, là. Notamment en Suisse, où la Migros, qui est vraiment une institution privée très monopolistique, a racheté des fitness, enfin des centres de gym, il y a à peu près une dizaine d'années. Puis on peut récolter des points en faisant un certain nombre de kilomètres, machin. Bon, à la limite, là encore, ça va. Mais il y a 2 ans, ils ont commencé à acheter des centres de santé. Et là, ça commence à devenir vachement inquiétant quand même. Alors il y a... au Canada, vous avez la RAMQ, donc de toute façon, un droit... comment dire, il n'y a pas de prime d'assurance maladie, vous payez par vos impôts. En Suisse, on a un système privé mais obligatoire qui est régulé par une loi qui s'appelle la loi sur l'assurance maladie, qui est parfaitement injuste d'ailleurs. Tout le monde paye la même prime, que vous soyez riche, pauvre, tout le monde paye à peu près la même prime, où il n'y a pas de discrimination possible. Donc, il ne pourrait pas dire, voilà, vous avez un profil plus risqué que l'autre, donc vous allez payer plus cher. C'est garanti que chacun a accès aux mêmes soins. Par contre, là où ils veulent, en tout cas au début, jouer, c'est au niveau des assurances complémentaires. Parce que les prestations assurées par l'assurance de base obligatoire sont en train de se réduire. Par contre, voilà, le fait de savoir si vous aurez accès à tel ou tel examen, à de la physiothérapie, etc., etc., ça dépendra de l'assurance complémentaire qui, elle, n'est pas soumise à des obligations contractuelles. Et là, on pourra dire non, contentez-vous de l'assurance obligatoire, vous irez dans une chambre commune à l'hôpital, parce que si vous mangez trop de burgers, donc on n'a pas envie que dans 20 ans, vous ayez un infarctus et puis vous coûtiez trop cher parce que vous allez dans une chambre privée puis vous choisissiez votre chirurgien puis vous profitiez des techniques de chirurgie les plus coûteuses et les plus perfectionnées. Ben non, vous n'aurez pas accès. Et puis là, déjà, on est dans la médecine à deux vitesses, en fonction du risque que vous représentez. J'ai bonne chance de penser que c'est l'avenir, ça, malheureusement.
Oui,
c'est une forme de ouais, c'est ça. Une forme d'hygiénisme. Hein. Et puis, c'est, les mentalités aussi changent. J'étais vraiment effaré d'entendre assez souvent les discours « Oui, mais bon, moi je paye cher mon assurance maladie, et puis je fais attention à moi, et puis je fume pas, et puis je vois pas pourquoi je paierais pour ma voisine qui bouffe n'importe quoi, puis qui fume comme une locomotive. » Il y a une remise en question, de plus en plus, du principe de solidarité, qui fonde pourtant l'assurance sociale. Alors que c'était quelque chose d'intouchable, il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, ça allait peut-être encore... peut-être en France, j'espère, avec la sécurité sociale. Mais on est en train de préparer un terrain, là, qui fera que ce ne sera plus aussi automatique que ça l'a été auparavant. J'en ai bien peur. Et en tout cas, c'est quelque chose, c'est une ère qu'ils sont en train de préparer du côté des réassureurs et chez les assureurs. Et les assureurs qui font des tests pilotes en Suisse, puis je crois avoir vu ça aussi au Canada, avec le Quantify Self. Si vous acceptez de porter un bracelet qui mesure vos pulsations cardiaques, si vous marchez plus de 10 000 pas par jour, etc., puis ça vous fait une réduction sur votre assurance maladie complémentaire, par exemple.
Ça fait la même chose aussi avec les assurances auto, de tester un petit gadget pour voir
c'est ça.
Quelle vitesse vous freinez, finalement.
C'est ça. Donc pour l'auto, à la limite, on peut encore comprendre, ça peut être relativement acceptable, quoique, bon, on ne choisit pas toujours le fait qu'on est obligé d'avoir une voiture, et puis ça, il y a déjà un effet de discrimination, mais pour la santé, c'est encore sans doute plus... ça va encore plus loin, c'est encore plus grave.
Ça prend des tas de formes, hein. Il suffit de voir la configuration socio-technique dans une voiture hybride, par mm-hmm. exemple, pour ne pas noter de marque, la Toyota oui. Prius, là, je pense, mm-hmm. où on voit en permanence, enfin on peut voir en permanence la consommation et tout, et ça peut avoir, j'imagine, une influence assez notable sur la vitesse même à laquelle on va, puisque ça indique la consommation, et si on est dans quelle zone, en fait, si on consomme électrique, si on consomme l'essence, ouais. et si on est en surconsommation d'essence.
Ouais, ouais.
Par ailleurs, peut-être pour conclure, et les échanges ont été très très intéressants, mais alors ça pose plein de questions, et puis je te remercie beaucoup. Ouais, il y a une des choses qui me frappe, hein, c'est que quand on fait une distinction, par exemple, nette entre des pays qui seraient démocratiques et des pays qui ne seraient pas, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, parce que, j'allais dire, j'aime bien Hannah Arendt hein, sur sa notion de liberté. Quand Hannah Arendt dit qu'en fait, je vais paraphraser, hein, ça ne dit pas exactement la même chose, mais en fait, ça revient à ça, c'est de dire la liberté, ça ne suffit que sinon on ne s'en sert pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a l'impression, plus qu'on est dans des pays libres, qu'on l'est exactement. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant... ici même, en communication, à la fin des années 90, c'était au moment où il y a eu le mouvement altermondialiste et où il y a des étudiants qui ont été s'enchaîner lors d'une réunion de l'AMC. Bon, ces gens-là, ils sont fichés depuis. Hein. Donc, ça veut dire que si vraiment on use de sa liberté, c'est pas très, on n'est pas très très loin en permanence d'être ouais. fiché et puis on peut le garder à vie. Hein. Et j'ai entendu parler, alors j'y étais pas, et puis à l'époque, j'avoue que j'étais très très jeune, je vivais loin d'ici. On entend aussi, j'ai pu entendre énormément de choses également sur ce qui s'est passé, par exemple, pendant la crise d'octobre en 1970, hein, ici même, et sur les gens, notamment de gauche, qui ont fui tout simplement le Québec. C'est une partie de l'histoire, en fait, des relations entre le Québec et le Canada dont on ne parle jamais. Hein. Bon, et je suis persuadé même qu'il y a des gens qui ignorent ici ce dont il s'agit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toutes ces questions sont étroitement entremêlées, en fait. C'est que, comme le dit très bien Gramsci, d'un côté, l'idéologie, ça fonctionne à l'hégémonie douce, mais d'un autre côté, par rapport à tout ce qui est le soft power, un paquet d'éléments, à côté, le bâton n'est jamais très loin. En fait. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, nos systèmes dits démocratiques.
Absolument, oui.
Parce que,
ouais.
je pense qu'on n'est pas dans des démocraties, c'est plus compliqué que ça, comme tu disais, plus complexe que ça. Ouais. Par ailleurs, il me semble que la question à laquelle tu renvoies par rapport au lien à la vie privée, ben, c'est une question aussi qui est à la fois qui relève du privé et qui est éminemment politique. Hein. C'est ce que tu as dit, parce que ça relève du collectif. Et ça, c'est vraiment le rapport que nous avons en tant qu'individu au collectif qui se pose aussi, me semble-t-il. Mm-hmm. Et puis, par exemple, le titre de ton intervention, ben, ça me faisait penser tout à fait à des questions, en effet, la consommation comme contrôle social. Et par exemple, c'est s'interroger en termes de projet de société sur la place de la consommation dans nos sociétés. C'est quelque chose, évidemment, dont il n'est jamais question nulle part depuis bien longtemps. Donc je pense que voilà, il faut à un moment aussi sortir du cadre pour pouvoir essayer de voir ailleurs. Tout ça pose plein de questionnements. Je pensais aussi à l'élection présente. Tu parlais à l'instant tout à l'heure du fait est-ce qu'on peut à la limite est-ce qu'on pourrait pas envisager qu'il n'y ait même plus besoin de tenir le jour de l'élection si par exemple c'est déjà prévu que Trump va gagner. Non, je pousse le bouchon extrêmement loin, mais c'est des questions qu'on pourrait se poser. Exactement, par exemple, tu as eu une époque, j'avais pas suivi la recherche qui avait été faite là-dessus, mais il y avait des recherches qui ont montré que les échanges sur Twitter, on pouvait prévoir à peu près à 3 jours d'avant, en fonction de la nature, alors on va avoir un peu la variable qu'on utilise, entre la nature positive, optimiste ou pessimiste des échanges qui ont lieu sur Twitter, on pouvait prévoir à peu près 3 jours à l'avance. Je sais pas du tout ce que c'est devenu, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont au courant, on pouvait prévoir les mouvements de la bourse. 3 jours avant, en fait, en fonction des échanges avec les auteurs, on savait à peu près si la bourse allait plonger ou si elle allait augmenter. Mmh. Bon. Bon, il y a quand même beaucoup de certitudes. J'aime beaucoup ta phrase tout à l'heure quand tu as dit en fait, ce sont les gens qui veulent faire croire que ça marche, en fait. Mais ça marche plus ou moins. En effet, la question de Big Data, c'est aussi tout un discours, en fait, de promotion, tout ça. Oui. Il y a un discours idéologique qui est évidemment très fort.
Dans ton exemple, ça a aussi quelque chose de prophétie autoréalisatrice. Si tu estimes que la bourse, tu prévois qu'elle va baisser, et forcément elle va baisser, parce que tout le monde va investir. Si tu prévois qu'elle va augmenter, tout le monde va investir ainsi de suite, même si ces questions-là.
Ah oui, la question de la prophétie autoréalisatrice est intéressante aussi. Hein.
Mais c'est vrai que dans le champ de la surveillance, c'est intéressant ton dernier point, parce qu'on a beaucoup gobé ce que les promoteurs des systèmes de surveillance proclamaient. Parce que c'était dans leur intérêt aussi de défendre l'efficacité de leur système de surveillance, puis ça nous a effrayés, et puis au moment où on a commencé à faire des études empiriques de fond, on se rend compte en fait que bah, bien souvent ça marche pas. J'ai un collègue écossais maintenant qui est prof en Australie, il a fait son travail sur les caméras de surveillance, il a fait des observations ethnographiques c'est assez drôle, dans un de ces fameux centres de contrôle où il y a une centaine d'écrans, etc. Et en fait, ce que regardait le plus souvent, c'était très masculin d'ailleurs, comme ambiance, il y a quasiment que des hommes qui étaient là-dedans, pour me dire qu'en fait, il y a tout le temps que des hommes. Et ce qu'ils regardaient le plus, c'était pas des potentiels criminels ou terroristes, mais c'était les jupes des filles. Ils passaient leur temps, et là on retrouve, les vieux schémas qu'on connaît, hein, théorie des genres, et puis l'inefficacité. On retrouve le bon vieux être humain tel qu'on le connaît, alors qu'on s'imagine voilà, le centre de contrôle avec les gens qui sont à l'affût, et puis dès qu'il y a un criminel, il va appuyer sur le bon bouton, puis il va se faire arrêter. Ben non, ces systèmes, ils ont des déficiences, et heureusement, quelque part, j'ai envie de dire. Et puis aussi sur ce que tu as dit sur Arendt, ça me fait penser à une citation de Snowden qui est quelque chose vraiment très intelligente. Quand il s'adresse à ceux qui disent voilà, j'ai rien à cacher, ils disent oui. Qu'est-ce qu'il dit ? De dire je n'ai rien à cacher, c'est comme dire je n'ai rien à dire par rapport à la liberté de l'expression. Et puis là, je pense qu'il a vraiment raison. Puis ça rejoint ton clin d'œil à Arendt. Hein. La liberté n'existe que si on s'en sert. C'est vraiment ça. Puis aussi sur Gramsci, le bâton n'est jamais trop loin. Effectivement, le modèle que je donne, oui, alors qu'on passe du supplice de Damien au distributeur de glace qu'on vient sucer quand on a fait une bonne chose, voilà, c'est un petit clin d'œil au...
Bah, c'est un peu de face de la
mienne. Si tu pouvais passer le bac, là, si tu te rappelles de ce...
Ah non, je m'en souviens pas.
Tu t'en souviens pas, bon, je suis plus un peu trop dans les souvenirs. Mais là aussi, le bâton, il est pas loin. Parce qu'on est récompensé tant qu'on fonctionne dans le système, mais si... Si je vais dans au complexe des jardins, là, puis que je commence à faire et puis à pas respecter les codes sociaux du lieu, ben je vais y goûter au bâton.
Bon, ça renverrait à des questions comme le rapport entre la légitimité et la légalité, etc., etc. Mais encore merci, Samy.
Merci à vous.
Alors, ceux et celles qui sont venus en dehors du cours, merci beaucoup. Hein, et puis, à une prochaine fois, je vais garder celles et ceux pendant quelques minutes qui sont inscrits au cours. Mais je vais demander, on va faire une petite pause, et puis on se retrouve dans 7 minutes 30 hors caméra. Mais pas sans autodiscipline.
C'est vrai, maintenant on peut parler parce que c'est...